Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité. À chaque épisode, je recevrai un jeune, un parent ou un professionnel qui viendra poser son point de vue sur le thème de la parentalité. Aujourd'hui, c'est les vacances scolaires. J'ai la chance d'avoir des jeunes, plus de jeunes que de moins jeunes sur ce plateau. Et ça va être l'occasion de parler de jeunes parents ou parents de demain. Je vous invite à vous présenter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Ouais, ça va.
Ça va. Maya, comment tu vas ?
Ça va super, et toi ?
Ça va. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Me présenter. Bah déjà, merci pour l'invitation.
Merci.
C'est un plaisir, ce parc. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais.
Merci.
Pour ta valeur ajoutée auprès des jeunes, puisque je pense qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à faire les choses pour soi, et le fait que tu sois là et que tu les intègres et que tu leur montres ce cœur de métier, je trouve ça top. Donc moi, c'est Maya, journaliste. Je m'appelle la journaliste 3.0. On se dira pourquoi, parce que je suis beaucoup sur les réseaux. Une présentation assez longue, courte,
comme tu veux.
Je vais faire très simple. Présentation, alors j'ai fait une école d'audiovisuel, dans les premières écoles audiovisuelles qu'il y avait à Paris, qui est gérée par Richard Joffo. De là, j'ai vraiment été intéressée par les médias. Et après je me suis donnée à fond. Sachant que c'est un métier très difficile, il ne faut pas se mentir. C'est vraiment soit tu buzzes, soit tu rames, mais quand tu y es, tu as tes appuis solides. Comment dire ? Ensuite, j'étais sur une web TV congolaise. Ensuite, j'étais sur Biblack Africa, très regardée en Afrique, chaîne musicale. Ensuite, j'ai été chroniqueuse sur Génération avec Lamal dans le Lamal Show. Mmh. Et je suis indépendante aujourd'hui. J'ai mon émission qui s'appelle « Ici, tout est dit ». Où je parle de toutes les thématiques. Je veux parler des sujets brûlants, je parle de politique, je peux parler de relations hommes-femmes, je peux parler de tout.
Elle j'ai pas de tabou. Brûlants.
Et j'aime les sujets brûlants. Donc, et c'est un peu, je pense, la chose à savoir quand on est journaliste, c'est pas ta personne qui traite le sujet, tu es là au service des sujets. Donc tu peux parler politique, sexe, religion, faut pas se dire « Oh oui, mais je peux pas », parce que là, oublie-toi, c'est le sujet que tu amènes en œuvre. Que tu mets devant. Voilà.
Ou bien tu vas faire brûler nos tasses de thé.
Pourquoi pas.
Rokaya, comment tu vas ?
Ça va très bien, et toi ?
Ça va. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ?
Ok. Je m'appelle Rokaya, j'ai 21 ans, je suis actuellement une étudiante de maths informatique. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? À côté de les études, j'ai ouvert une association en mars 2024 avec mes copains, mes copines.
Super.
Et voilà, j'aime beaucoup le monde associatif.
Et quelle association tu as ouvert du coup ?
Miswaki Harmony.
Tu nous en parles un petit peu ?
C'est une association créée par des jeunes. Enfin, on a commencé par des maraudes et on a vu que ça prenait énormément d'ampleur. Mmh. Donc on a décidé tout simplement d'ouvrir une association. Et ce que j'aime beaucoup dans le monde associatif, c'est que, enfin dans la mienne du coup, c'est qu'on n'est que des jeunes et on s'entraide du coup, enfin on s'entraide dans des bonnes choses et on passe pas forcément que par exemple des soirées ou autre. Le temps qu'on passe, il est utile. Mmh. Et c'est ce qui du coup me plaît et nous plaît.
C'est trop bien. Et elle est implantée où ton asso ?
Dans le 19e arrondissement.
Okay.
Et on est un petit peu partout. Les maraudes, c'est pas fixe. On se propage un petit peu partout en Ile-de-France.
C'est génial. Et du coup, s'il y a des auditeurs qui souhaitent rejoindre ton association, comment on procède ? Où est-ce qu'on vous retrouve ?
Sur Instagram, sur Snap, sur TikTok. C'est Miswak Harmony. Si vous voulez devenir bénévole ou membre, vous avez juste à envoyer un petit message et vous rentrez.
Génial. Il en faut des associations comme ça. On parle de l'engagement des jeunes et du coup, t'as un bel exemple d'engagement. Donc, merci pour ce que tu fais aussi, Rokaya. Aminata, est-ce que tu veux bien te présenter ? Comment tu vas, déjà ?
Je vais bien et toi ?
Ça va très bien. Alors, qui es-tu ?
Je me présente, je m'appelle Aminata, j'ai 19 ans et je suis en formation d'EduxP.
Très bien, c'est un beau métier, éducateur spécialisé. Ça. Je dis ça parce que c'est un peu le mien. est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose sur le fait que tu sois peut-être maman, pas maman, t'envisages de l'être, pas l'être?
Bah, j'envisage de l'être, mais je ne le suis pas encore.
Ok. Bienvenue, Aminata. On a aussi Barbe Riche, notre cher chroniqueur. Est-ce que tu veux bien te présenter?
Ouais. Barbe Riche, cofondateur de Soapark, journaliste, chroniqueur, animateur à mes heures perdues et chroniqueur de cette magnifique émission.
Est-ce que t'es papa?
Oui, de 3 jeunes, belles demoiselles.
Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir une invitée mystère qui prendra pas la parole parce qu'elle souhaite d'abord se mettre dans le bain. Je vous présente Fatou. Fatou qui est créatrice aussi, qui a une entreprise et qui aide à planifier, organiser son temps, qu'on soit entrepreneur, jeune, à la recherche de ce qu'on a envie de faire plus tard. Je te dis bonjour quand même, Fatou. Alors, aujourd'hui, on est là pour se lancer dans la thématique de la parentalité, nouveaux parents ou parents de demain. Et ma première question s'adresse à toi, Maya. Tu me regardes. Maya, aujourd'hui, tu es maman. Est-ce que tu veux bien nous dire quel âge a ton enfant?
C'est rare que je parle de mon bébé, mais bon, ça fait pas longtemps, il est tout nouveau. Voilà, sachez qu'il est tout nouveau, c'est les bébés qui se réveillent beaucoup la nuit, les bébés qui veulent que les bras de maman, il a quelques mois.
Ok, et selon toi, qu'est-ce qu'un parent?
Selon moi, pour moi, il n'y a pas de profil type du parent, vraiment. Le parent, je ne me permettrais même pas de dire c'est quoi un parent, parce que moi-même, je suis en pleine découverte du rôle de maman. Je dirais simplement que c'est le pilier, c'est le repère d'un enfant, c'est tout, selon moi.
Mais c'est déjà dans ta toute petite phrase, tu en as déjà dit beaucoup, le premier repère et le pilier d'un enfant. Mm. Oui, c'est beau en plus. Anne, pour toi, un parent?
Bah moi, je suis berger, donc pour moi, un parent, c'est guide.
Guide, tu dirais?
Ouais, c'est le guide.
Ok. Ouais.
C'est... Pour moi, le parent doit donner la bonne direction à son enfant.
Je suis d'accord.
Ok, ça marche. Rokhaya, pour toi, un parent, c'est quoi?
Moi, j'aurais dit une figure à vie, mmh, dans le sens où bah, on sera toujours lié à nos parents. Mmh. Donc c'est ça, c'est notre moteur, c'est toute notre vie entre guillemets. Mmh. C'est comme ça que je définirais bah du coup les parents.
Et pour toi, Aminata?
Bah moi je rejoins ce que Maya disait, pour moi un parent c'est un pilier, c'est un exemple et un repère quoi.
Je t'aime bien, Aminata.
Ouais, il n'y a pas de définition type du parent. On a surtout des gens qui essayent,
exactement,
qui donnent la vie ou pas. Parce qu'un parent, ce n'est pas forcément celui qui a donné la vie. D'ailleurs, dans la définition de parent en France, on est parent quand on est tata, quand on est tonton. On est parent quand on est frère, sœur. Donc finalement, le parent n'a pas de définition propre. Néanmoins, il a quand même des obligations et des devoirs. Est-ce que vous en connaissez certains?
Bien sûr.
Allez, on se lance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste des réponses.
Bah, de toute façon, de toute manière, la première obligation, c'est de nourrir son enfant.
Ok. Quoi d'autre?
Éduquer.
Éduquer, quoi d'autre? Selon vous, qu'est-ce qu'un parent est censé faire?
Subvenir aux besoins de manière générale.
Ouais. Mmh.
L'écouter, communiquer.
Écouter, communiquer.
Protéger.
Protéger.
Guider. Je reprends ce que tu as dit, le guide. Guider, quoi. Ouais.
Guider. Quoi d'autre?
Transmettre des valeurs.
Ouais.
Là, c'est quoi? C'est une interro? C'est quoi?
Non, mais c'est important parce que si on n'a pas conscience des devoirs qui nous incombent, même si l'enfant ne nous appartient pas, il vient au monde et on a la responsabilité et la charge de prendre soin de lui, de le protéger, de subvenir à ses besoins, de veiller à sa sécurité mentale, morale, physique, physiologique. Mais pour autant, un jour ou l'autre, il doit prendre son envol.
Je suis tout à fait d'accord.
Est-ce qu'on peut s'épancher 2 minutes sur le fait que un enfant ne nous appartient pas? Déjà, est-ce qu'on est d'accord avec le fait que l'enfant ne nous appartient pas? Qui, oui, pense que l'enfant nous appartient?
Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il ne nous appartient pas.
Pourquoi tu dis ça, toi? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne nous appartient pas?
Après, moi, c'est plus d'un côté religieux,
ouais, vas-y,
que je vois la chose. Ouais, c'est plus d'un côté religieux.
Rokhaya?
Il ne nous appartient pas dans le sens où on est venu seul, il repartira seul.
même si ça a été une cause de notre venue, je reprends du coup ces termes par rapport à la religion, sur cette terre, bah, au final, c'est pas parce que j'ai éduqué mon enfant comme ci, comme ça, que forcément il sera comme ci, comme ça. Par exemple, si demain, ma mère, elle veut absolument que je devienne médecin ou quelque chose comme ça, et que moi, j'ai envie de faire Didier, au final, elle n'est pas au contrôle de mes choix.
Ouais.
Donc, je ne suis pas forcément...
libre arbitre.
Tu n'es pas sa propriété.
Je ne suis pas sa propriété, mais je lui dois quand même beaucoup de choses.
C'est bien dit. Pour vous deux, on appartient ou on n'appartient pas à ses parents?
Non. De toute façon, moi, je pars d'un principe que l'enfant, dès lors que... on le sociabilise, ça y est, il nous appartient.
Tellement vrai. Tellement
ça y est, il nous appartient plus. Parce qu'en plus, on parle de coéducation aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'il sort et ça qu'il est en lien avec d'autres, ça y est, il a d'autres influences. Donc, il ne nous appartient plus. Après, il y a ce côté appartenir. Moi, je trouve qu'appartenir, c'est quand même... ça a une connotation un peu, pour moi, péjorative, dans le sens où c'est en rapport avec l'objet. Appartenir, et non, un être humain, on va dire qu'on se doit de l'accompagner tout au long de sa vie, mais en tout cas jusqu'à ce qu'il soit autonome. Mais non, il ne nous appartient pas.
Maya ?
Péjoratif, non. Après, peut-être parce que tu as un homme, mais pour les mamans qui ont porté les bébés 9 mois, non, ils nous appartiennent. Après, oui, religieusement parlant aussi, je rejoins... On sait très bien qu'ils ne nous appartiennent pas, mais de dire qu'ils nous appartiennent, c'est les 9 mois, c'est tout ce qu'on a subi. Voilà, ça fait partie de nous. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord.
Oui, mais en fait, on entend souvent « c'est mon enfant, je fais ce que je veux
».
Vous l'entendez ou pas autour de vous? C'est-à-dire que quand on parle des enfants, souvent, les parents, c'est mon enfant, je fais ce que je veux, je l'éduque comme je veux, et si t'es pas d'accord, va voir ailleurs si j'y suis.
Ou sinon, je pense que on vous dit ça, tant que t'es chez moi, tu respectes mes règles.
Ouais, ouais, voilà. Tant que t'es ici, c'est moi le chef.
Chez moi.
donc, du coup, c'est intéressant de se projeter sur cette nuance d'appartenance, même si Anne disait que c'est lié à l'objet, en fait. Qu'est-ce qui t'appartient? Normalement, c'est ce que t'achètes. Alors que pour l'enfant, il y a quand même une nuance. Ça veut dire que tu l'as dit, Maya. Rokia aussi, elle l'a un peu dit. Ça veut dire qu'on porte l'enfant pendant 9 mois. On l'a conçu, avec amour, certes. Quand il arrive sur cette terre, on est responsable de lui. On est son repère, son pilier. Il est avec nous au quotidien. Mais de l'autre côté, on veut nous dire qu'il n'est pas à nous.
Faut faire doucement.
Donc, du coup, c'est là où devient compliqué les choses. Après, Barberus, comme il disait, on est dans la coéducation. Et je pense que ce terme-là, il est très important dans le sens où dès lors qu'on part du principe qu'on est dans la coéducation, tout de suite, on plante la graine de « on est tous responsables de cet enfant, de cet être en devenir, de cet adulte potentiel ». Et tu l'as dit aussi, à un moment donné, il aura ses choix. Il va devoir choisir lui-même sa direction. Et bien là, on est dans le cœur du sujet. Tout à l'heure, on demandait qu'est-ce qu'un parent. J'ai envie de vous pousser un peu plus loin. Et quelle est la responsabilité, du coup, des adultes référents près d'un enfant quand il ne tourne pas très bien, quand ça ne va pas très bien?
La responsabilité?
Ouais.
Je pense, pour moi, peut-être que vous allez me trouver dur. Déjà, je trouve qu'aujourd'hui, s'il y avait possibilité de donner un permis pour avoir des enfants, franchement, je serais pour. Parce que je trouve que beaucoup de gens font des enfants et n'assurent pas. Je ne parle pas de l'éducation parce que, je répète, pour moi, une bonne éducation, ça dépend de chacun. Un bon parent, ça dépend de chacun. Personne n'est mieux que l'autre, tu vois. Mais il y a beaucoup trop de personnes qui font des enfants aujourd'hui et qui les laissent un peu livrés à eux-mêmes, tu vois. Et au final, on regarde l'enfant. Mais moi, quand il y a un problème, je ne regarde plus les enfants. Je regarde les parents, parce que c'est les parents qui éduquent. C'est les parents qui te montrent, oui, on n'appartient pas, comme je reprends ce qu'on disait. Oui, tu grandis et il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de l'extérieur, des amis et tout. Mais ça reste les parents qui te donnent le premier. Et je trouve que déjà, juste pour commencer, il faudrait vraiment que... Moi, je trouve que vraiment, la responsabilité, c'est de se dire, je fais un enfant, je me dois de l'orienter. Après qu'il suive, c'est une chose. Mmh. Mais moi, mon devoir, c'est de l'orienter. La vie, c'est comme ça, exemple, voilà, il faut faire telle ou telle chose. Et nous, on a tout de suite tendance, je trouve, cette société où les gens à juger les enfants. Mais il vient d'où ? Son environnement, mmh. ses parents. Tu vois, peut-être c'est pas lui, peut-être il fait comme il peut, parce que oui, sa mère l'a mis au monde, elle lui achète des vêtements, elle le nourrit, mais c'est pas tout, en fait. Mmh. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Je vois, mais je te rejoins, mais je te rejoins pas, dans le sens où... un enfant, il est libre de faire ce qu'il veut. Que, enfin, dans le sens où je peux vivre chez ma mère,
oui.
faire montrer que je suis une bonne fille, mm-hmm. Être la fille parfaite, etc. Mm-hmm. Et dehors, bah, je fais ce que je veux. Et enfin, je fais ce que je veux. Je fais n'importe quoi.
Bah, je suis d'accord avec toi.
Ça veut dire que, par exemple, aux yeux de ma mère, je serais la personne la plus idéale, enfin, la plus parfaite. Mm-hmm. Mais en fait, il y a le côté responsable, mais pas responsable. Par exemple, demain, je vais voler quelque chose au Franprix.
Non, jamais.
Je vais voler quelque chose au Franprix. Ma mère, on va l'appeler, elle sera tout de suite choquée. Bien sûr. Que peut-être c'est quelque chose que je fais fréquemment. Mm. Donc en fait, il y a la responsabilité, mais il y a pas aussi. Enfin, je mettrai pas
l'entière
responsabilité, bah du coup sur le parent.
C'est pour ça que j'ai dit. En fait, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai dit le but pour moi la responsabilité première, comme elle a posé la question, ouais. pour moi, c'est d'orienter. Après, mm-hmm. comme j'ai dit, l'enfant, il suit mm-hmm. ou il ne suit pas. Mm-hmm. Mais je suis convaincue qu'il y a certaines choses qu'on va t'apprendre à la maison qui vont impacter ton comportement à l'extérieur.
C'est vrai.
Tu vois, juste...
il y a le côté lâchement, enfin, il y a le côté éducatif, dans le sens où mm-hmm. bah, ta mère, elle t'éduque, elle te dit que voilà. c'est pas bien de voler, etc. Choses, etc. Si après, tu es libre d'écouter
exactement.
Ou pas.
Exactement.
Mais l'enfant, en tout cas, mm. même dans notre génération, etc., je ne sais pas, évidemment, on est très libre d'esprit.
Vous êtes des rebelles.
Mmh. Ouais, on est des rebelles.
Ouais, vous êtes des rebelles.
Franchement, c'est vrai. Uh-huh. C'est vrai, on est des rebelles, ouais. on ne veut pas écouter. Ouais. Donc, par exemple, dire que par exemple, ça va être la faute un petit peu des parents, je ne sais pas ce que tu as dit, bien évidemment, mais on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rebelles. Alors que peut-être vous, dans votre génération...
J'aime trop le vous.
Non, mais pas, c'est pas méchant, mais je pense que... Voilà, je
sais vous, les dinosaures.
Non,
ouais. Non, mais on comprend.
Vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez avoir, c'est comme mes grandes sœurs, elles vont avoir plus peur de ma mère. Enfin, c'est pas une fierté de le dire, hein, mais par exemple, elles vont me dire, moi, à ton âge, je faisais pas ci, je faisais pas ça. Mm-hmm. Et moi, je vais dire, moi, j'essaie d'expliquer à ma mère, moi, j'ai envie de faire ci, j'allais de faire ça. Mm-hmm. Et elles n'osaient pas forcément le faire. Mm-hmm. Vous voyez à peu près ce que je veux dire.
Tu touches du doigt un vrai sujet... ne serait-ce que dans la même fratrie, les aînés et les derniers de la fratrie n'ont pas du tout le même rapport à l'autorité. On y reviendra après. Mais en fait, vous savez pourquoi il y a eu
du débat sur la question,
c'est l'âge.
Attends. Parce qu'elle a quand même dit une dinguerie.
J'ai dit quoi ?
Elle a dit que Maya a dit qu'il fallait...
Un permis
pour mais les parents. Sûr, est-ce que tu sûr. Peux nous expliquer
c'est ça ton c'est problème,
quel type de permis
c'est ça ton problème.
C'est ça. Non, alors, déjà, je trouve, après, c'est un sujet assez vaste, donc je ne veux pas me perdre dans ce qu'on dit. La question, c'est la responsabilité, d'où, pour moi, le fait de dire qu'il faudrait un permis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, je pense, dans notre environnement, je ne l'espère pas, mais la plupart des gens, au moins une personne qui a du mal à concevoir. On est d'accord que la jeunesse, contrairement au temps de nos parents, pour avoir des enfants, il y a tout au moins une personne où tu vois qu'elle a du mal à concevoir. Et de l'autre côté, je trouve qu'il y a un énorme paradoxe. Il y a des gens qui ont des enfants, mais quand tu vois, t'es débordé en fait. Et je vais aller du plus simple au plus compliqué, d'accord ? De tout ce qui est très superficiel dans la manière dont l'enfant va être vêtu en hiver, tu vois ? Tu vas avoir un enfant. Et moi, je suis vraiment... contre les jugements des parents. Tu vois un enfant avec le rhume, non, ça arrive. Peut-être la maman, elle est en galère, elle n'avait pas... Tu vois, le temps qu'elle attrape le petit, qu'elle lui nettoie le nez, toi, tu arrives au moment où il avait du rhume. Il n'y a pas de problème. Mais comment les enfants sont vêtus, comment les enfants s'expriment, non. Parce que là, je reviens sur toi. Là, je ne peux pas. Comment les enfants vont agir face à certaines situations. Tu vois, à un moment donné, il y a des trucs, on le veut. Enfin, des trucs. Il y a des choses, il y a des actes, il y a des situations, il y a des comportements, on veut ou non. Les parents, ils y sont pour quelque chose.
Bien évidemment. Bien évidemment.
Et moi, je suis d'accord c'est violent, mais pourtant, c'est tellement vrai.
Tu vois, je vais en faire un sujet.
Le permis d'avoir un enfant, dans le sens où il y a ce que la nature nous permet, c'est-à-dire mm-hmm. de procréer, mm-hmm. d'avoir des enfants, mm-hmm. de mettre au monde. Mm-hmm. Et il y a tout ce qui est lié aux valeurs, aux comportements. Mm-hmm. La dernière fois, on était en voiture et en fait, il y a un monsieur qui passe à côté de la voiture. Et la façon dont il s'adressait à son enfant, dans un premier temps, j'ai pensé qu'il était avec un animal. Et même l'animal, tu vois, genre un maître qui parle comme ça à son chien, c'est bizarre.
Il a dit quoi ?
Il lui disait, mais vas-y là, avance. Et je me retourne et on ne voyait pas l'enfant tellement il était petit derrière la voiture. Donc, je pensais vraiment que c'était un chien. Et il tenait son fils, en fait, par la main.
Tu vois.
Le gamin n'avait même pas les pieds qui touchaient le sol. Il avait des paroles tellement méprisantes et je regarde et je me dis mais c'est pas possible en fait. J'étais prête à ouvrir la voiture alors qu'on était en train de rouler et il jette le gamin dans la voiture. Et là, je filme la plaque en me disant mais en fait moi direct je vais au commissariat et je donne ta plaque monsieur parce que c'est pas normal.
Attention à vous, hein. Si vous rencontrez ce parc, attention à vous.
Mais clairement, et en fait pendant au moins une heure, j'étais en boucle en train de me dire mais comment c'est possible ouais. que ces gens-là soient en responsabilité d'enfant, ouais. là où d'autres aimeraient en avoir, mais ne peuvent pas adopter, alors qu'ils remplissent toutes les conditions. Et homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont vraiment cette intention d'éduquer, de donner de l'amour et d'emmener des enfants vers un monde meilleur, un avenir meilleur que ce qu'ils ont aujourd'hui, mm-hmm. à qui on ne donne pas le droit. Et d'autres, ben en fait, en toute impunité, et puis dans la rue, personne ne dit rien, quoi.
Mais personne ne moufte, mais même pas, bien sûr.
Aminata, qu'est-ce que tu en penses ? Je te voyais beaucoup hocher la tête sur cette notion de le permis d'avoir un enfant, et du coup, ces gens qui ont des enfants, mais qui
n'assurent pas, en fait, qui flopent totalement.
Après, moi, je suis d'accord, pour moi, tout le monde n'est pas fait pour être parent. Je sais pas comment expliquer.
T'as une belle voix, Aminata ?
Ouais, trop bien.
Oh là là.
Non, mais quand tu dis tout le monde n'est pas fait pour être parent, c'est-à-dire que dans le constat, dans ce que tu vois autour de toi, même les gens qu'on côtoie, avec qui on parle, est-ce que tu penses que c'est un fait ? On peut avoir un enfant, la nature nous donne la possibilité d'avoir un enfant, on fait notre enfant et puis après, on en fait ce qu'on veut ?
Bah, moi, dans les familles que je vois autour de moi, ils font beaucoup d'enfants. Beaucoup, quand je vous dis beaucoup, mais c'est vraiment beaucoup. Mais ils les négligent trop.
Elle a dit beaucoup.
Beaucoup. Je te parle pas Aminata. De 5 enfants ou 6. Je te parle de plus.
C'est ouais. dans les clichés, Aminata.
Oui, je suis grave dans les clichés.
Aminata, beaucoup d'enfants.
Mais elle a raison.
Mais du coup, je trouve qu'ils les négligent trop. Par exemple, le premier, ils vont être très durs avec les aînés. Et après, au fur et à mesure, bah, ils vont laisser les petits. C'est comme... je sais pas si vous vous souvenez de l'affaire de Naël, je crois que ça s'appelait Naël.
Naël, ouais.
Ouais. Bah, y avait beaucoup de personnes qui étaient dehors, qui cassaient les choses et tout. Mais c'est parce que leurs parents, ils les laissaient faire aussi. Ils voyaient leurs enfants sortir et après.
C'était même avec.
Ouais.
Il y en a qui étaient avec, tu dis, ok.
Mais en gros, c'est un exemple. Nous, enfin, moi, je suis l'aînée chez moi. Et je sais que ma mère, elle a été très dure avec moi. Mais avec mon petit frère, elle est très laxiste. Elle le laisse faire tout ce qu'il veut et...
Ton petit frère, c'est ta copine, alors.
Est-ce que je suis la dernière, c'est la première.
Ouais. Ouais.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'épuisement ? C'est-à-dire que si tu as, je ne sais pas, on va extrapoler une dizaine d'enfants, d'accord ? Allez, 8, entre 8, 10
ah là,
enfants.
Beaucoup.
Mais elle a pas dit beaucoup, parce que c'est quoi beaucoup ? Il y en a certains pour qui trois enfants, c'est déjà beaucoup. Tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça, je pense qu'elle a insisté sur beaucoup. Dans le sens où, si on s'arrête sur beaucoup, il y en a pour qui déjà trois enfants, c'est beaucoup. Tu es déjà une vraie famille nombreuse. Ouais. Et le fait d'insister sur le beaucoup, ça veut dire qu'on dépasse les cinq enfants, on va dire, cinq, six enfants. Est-ce qu'on peut être aussi performant, si on peut utiliser ce terme, avec le premier qu'avec le septième, surtout quand le septième, huitième, neuvième, et ben nous, on arrive à 50, 55, 60 ans.
Non, mais qui t'a dit ?
Est-ce qu'on est aussi performant ?
Non, mais qui t'a dit ?
Qui m'a dit quoi ?
Mais qui t'a dit de continuer ?
Ah, t'as des... Non, oh, en fait, ce plateau est sale.
Non, mais qui t'a dit de continuer ? Non.
À un
moment donné, quand tu fais des enfants et que tu sais que t'as plus la gouache,
Pour gérer,
faut arrêter.
Mais après, ça se contrôle pas.
Mais c'est
pas.
Comme elle dit, tu sais pas.
Ça se contrôle pas, elle a dit.
Mais tu sais pas. Je suis d'accord que quand tu l'es fait, tu sais pas.
Tu sais pas, oui.
Jeune. Comment ça, tu sais pas ?
Ben non, tu sais pas.
Parce que là, on a parlé des familles où il y en a beaucoup.
Ouais.
Oui, mais tu sais pas si tu vas assurer ou pas.
Bah oui, tu peux pas savoir.
Tu peux pas savoir.
Et puis, peut-être que, en fait, donner la vie, c'est tellement naturel et que tu aimes cette idée d'avoir des enfants et tu aimes tes enfants. C'est pas, là, on n'est pas sur l'amour ou le désamour. C'est-à-dire que tu aimes tes enfants, mais la capacité à éduquer dans une société qui bouge, qui change, Est-ce que tu n'es pas bloquée dans quelque chose en te disant, bah, depuis la nuit des temps, les femmes, elles ont eu des enfants et ça s'est toujours bien passé?
Ami, franchement, aujourd'hui, en plus, moi, je suis parent, j'ai 3 filles. T'as vu ceux qui font
beaucoup d'enfants.
Oui, j'ai la carte famille. Ouais, bah. Certains, c'est nombreux, j'ai la carte famille nombreuse.
En France, oui. Ouais, oui, c'est vrai, comme famille nombreuse. Bah, oui.
En fait,
oui, j'ai la carte famille nombreuse.
Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, pour moi, hein, des fois, il y a des parents qui se tirent une balle dans le pied. C'est-à-dire que arriver à un certain nombre, selon les situations de chacun, tu peux ou tu ne peux pas pouvoir assurer. Moi, je pars de ce principe-là. C'est-à-dire que si, par exemple, on va dire que financièrement, tu es à l'aise et que dans ton organisation aussi, tu peux inclure le fait d'avoir plusieurs enfants, ok. Mais il y en a qui font des enfants.
Pour faire des enfants.
Pour faire des enfants. Et après, c'est compliqué à gérer.
Ouais.
Et c'est une réalité. Et on est dans un déni. Il y a des gens qui ne veulent pas le dire, ça. Mais
pourquoi, à ton avis,
mais gérer des enfants, c'est compliqué. Moi, j'en ai 3. Aujourd'hui, elles sont adolescentes. Mais quand on doit acheter les paires à 200 balles, là, fois 3, c'est pas pareil que quand on a un.
C'est pas faux.
Et j'en ai 3. Alors, tout à l'heure, on parlait des familles où il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Donc, ça peut être vraiment un enfant, toi.
donc, du coup, moi, c'est de ça. Parce que l'idée, lorsque tu fais des enfants, c'est de leur... de faire en sorte de les mettre dans les meilleures conditions possibles.
C'est vrai.
Pour qu'ils puissent se développer au mieux. C'est ça l'idée. Donc si tu as 10 enfants, tu en as 15, tu en as 8, forcément, logiquement, si on est pragmatique et que tu n'as pas les moyens, c'est compliqué.
Moi, je vous rejoins pas tout à fait dans le sens où... on va dire encore que je suis l'avocat du diable. Avoir des enfants, ce n'est pas uniquement une question de moyens. Y a des gens qui ont très peu de moyens, qui ont des enfants.
Ouais, mais est-ce qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche aujourd'hui?
Presque. C'est la société qui te fait croire l'inverse. Ça veut dire que à partir du moment où ton enfant il est habillé décemment, il n'est pas obligé de porter des marques. Il est juste habillé de façon adaptée, un peu comme ce que Maya disait, aux saisons, automne, été, hiver, printemps. Attendez, c'est pour ça que je vous dis, je vais être l'avocat du diable. C'est parce que la société, cette société de consommation, te fait croire que l'enfant qui se porte bien, c'est celui qui est bien habillé, de marque, vêtu, de la tête aux
pieds.
C'est
pas ce que j'ai dit.
Et qu'il est dans l'opulence et qu'il manque de rien, etc. Il y a des familles qui sont dans le besoin. Certes, je dis pas que c'est facile, mais qui éduquent leurs enfants convenablement, avec des valeurs. L'enfant n'a pas grand-chose, mais est heureux. Il sait se satisfaire de peu de choses. Moi, je pense vraiment qu'il y a aussi les injonctions de la société et le regard des autres. C'est-à-dire que c'est le regard des autres qui fait que tu as l'impression d'être un misérable, etc., parce que tu n'es pas dans l'opulence et que tes parents ne peuvent pas t'offrir tout ce que tu veux. Mais si déjà, ils t'offrent l'amour, si déjà, ils t'offrent des valeurs, que tu es habillé décemment, que tu as accès à l'instruction, normalement, ça devrait bien se passer.
Oui, mais Ami, ce n'est pas ce que j'ai dit. Là, on parlait des parents débordés. Moi, je ne suis pas en train de dire que tu vois l'éducation, la bonne ou la mauvaise, en fonction de... Ce n'est pas une histoire d'image. Moi, je te parle
Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'image?
Moi, je te parlais des parents débordés. Il y a des parents, ils ont des enfants à foison, mais c'est normal qu'ils soient débordés.
Mais tu as des parents qui ont un seul enfant et qui sont débordés aussi?
Oui, mais ça, c'est... ils sont débordés de nature, parce que, tu vois...
Mais, oh, mon Dieu.
Mais non, parce qu'au début, avoir un enfant... Parce que, excusez-moi, ces parents-là, parce que le premier enfant, c'est difficile. Parce que le parent, ce n'est pas quelque chose que... Ce n'est pas inné.
Mm-hmm.
C'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure. T'apprends au jour au jour. Donc, excusez-moi pour ce que j'ai dit précédemment, être débordé, c'est normal.
Merci.
Non, mais c'est ça que je voulais dire, c'est normal d'être débordé. Mais au fur et à mesure,
tu régules,
tu rentres dans un équilibre.
Oui, je suis d'accord.
D'accord. Mais maintenant, on sait qu'un enfant, ça déborde déjà. Tu vas l'en faire 8. Moi, je trouve que c'est moi, en tout cas, que c'est compliqué.
Mais est-ce qu'on peut, excusez-moi, pas arrêter de dire 8 ou 15, on est dans les préjugés, là,
on est dans
la caricature, pardon.
Mais Maya, il y a vraiment... En fait, le problème, c'est
que...
On passe tout de suite dans les préjugés, et c'est pour ça que je parlais du regard des autres, c'est qu'on invisibilise le nombre de familles et
c'est vrai,
elles sont nombreuses.
C'est vrai.
Que ça soit les familles très religieuses, quelle que soit la religion, catholiques, musulmanes, etc., qui sont aussi, il y a quelque chose autour de la contraception, d'accord. Et il y a beaucoup plus de familles qu'on ne pense qui ont plus de 5 enfants et qui sont invisibilisées. Comme si c'était pas acceptable de dire, bah, moi je suis maman, j'ai 13 enfants. 12 enfants, 14 enfants, et par exemple, les filles, dans l'exemple qu'elles donnent, dans les quartiers populaires notamment, et dans le 13, on a beaucoup de jeunes, quand ils se présentent, ils te disent j'ai 9 frères et sœurs.
Oui, mais...
Il y a aussi cette question de polygamie.
Ah, merci. Merci. Je suis d'accord, mais il y a un truc où j'étais pas d'accord avec toi tout à l'heure.
Vas-y.
Non, on peut plus vivre d'amour et d'eau fraîche, selon moi. C'est pas vrai. Il faut vivre avec beaucoup d'argent et une bonne, bien réfléchir. Parce que sinon, ça ne va pas. Je pense que... comment dire ? Je suis d'accord avec le fait que voilà, faire des enfants, ce n'est pas forcément axé sur l'économie. Il faut qu'on ait forcément les moyens pour avoir une famille nombreuse. OK. Mais si tu n'as pas forcément les moyens, il faut que tu aies une vision de dingue. Faut que tu te... Et en même temps, j'ai envie de te dire, rien n'est... Dans la vie, tout change. Donc, tu vois, même ça, c'est égal à zéro. Mais je ne suis pas d'accord. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Avoir beaucoup d'enfants, c'est une réelle responsabilité. Parce qu'après, avec le temps, ben, les parents, ils vont se reposer sur les enfants en se disant que l'aîné va faire le job, donc il ne sait pas et tout. Mais l'aîné, il a d'autres choses à foutre, en fait. Des fois, il est là, c'est gentil, c'est mignon, mais l'aîné, il se cherche, quoi, tu vois. Et après, il y a des reproches. Et après, je trouve que ça peut créer des scissions dans la famille. Oui, mais toi, tu ne m'as pas aidé. Mais il va dire, mais au moment où moi, je devais t'aider, moi-même, j'étais en train de me construire. Donc, tu es mon petit frère, je t'aime bien. Ou tu es ma petite sœur, mais moi-même, je construisais ma famille, vous voyez. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, le nombre d'enfants, c'est propre à chacun. Hein. Ceux qui aiment avoir beaucoup d'enfants, que grand bien leur fasse, hein, s'ils peuvent gérer et que les enfants, ils sont dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai, comme tu disais, Barbeur, c'est compliqué. Si tu n'as pas la gouache, si tu n'as pas, pas la force de gérer. Mais après, je rejoins Sopar qui disait, mais en fait, tu ne sais pas. Parce que quand tu l'es fait, tu as la pêche. Donc, tu es dans l'amour et l'eau fraîche. Donc, tu ne visualises pas, tu vois. Tu ne vas pas loin dans l'esprit en te disant, oui, mais quand ils seront grands, comment je vais gérer. Tu es content de voir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais quand ils grandissent, c'est un peu plus chaud. Donc, je suis d'accord avec toi.
Ouais.
D'accord avec toi.
Après, moi, j'aime bien faire l'avocat du diable, d'amour et l'eau fraîche.
Non, mais vous vous rendez compte, elle a dit qu'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche.
Moi, je ne suis pas d'accord.
Ça se voit que c'est une vieille. Hein.
Les filles, non, mais c'est vrai. Par exemple, un enfant de 10 ans, il rentre au collège, ou, enfin, j'extrapole, on ne lui achète pas la dernière des paires Nike. C'est compliqué.
C'est très compliqué à l'école.
Ça va créer,
oui, tu vois, les gens vont se moquer de lui. En plus, les enfants, ils sont tellement cruels.
Ils sont méchants. Le monde, il est méchant.
C'est très grave. Moi, j'ai découvert que les enfants, ils étaient plus méchants que nous.
Ah, ben oui.
Oh là là, t'es moche, tes habits sont moches et tout. Moi, quand j'écoute mes neveux, j'ai dit, ah, quoi, pardon? Mais c'est lui qui a dit ça. Et tu redemandes, parce que des fois, tu as mal compris. Je dis, non, c'est qui a dit ça? Mais c'est ma copine, elle a dit ça et tout. Parce que moi, ma paire de Nike, elle était... Voilà. Ta paire de Nike. Donc, il y a un problème avec la paire de Nike.
Exactement.
Ouais, mais après, justement, l'enfant, il découvre, il est innocent. Et tout à l'heure, avant qu'on bouleverse tout mon fil conducteur, et là, je vous annonce tous, on est en impro direct, en live. Mais c'est le jeu et c'est l'idée justement de cette émission, c'est qu'on aille là où vous avez envie d'aller. Peut-être qu'il faut s'arrêter aussi sur la tranche d'âge des enfants, c'est-à-dire on parlait de responsabilité, mais selon la tranche d'âge, eh ben, forcément tout n'est pas la même chose. Est-ce que déjà vous pouvez me dire, pour vous, un enfant, il a quel âge? Ça va jusqu'à quel âge?
C'est-à-dire?
On est un enfant jusqu'à quel âge?
C'est-à-dire on prend en charge?
On est un enfant jusqu'à quel âge?
Moi, pour moi, mes filles, elles seront toujours mes enfants.
Oh. On est un enfant
même
au niveau de la société. Par exemple, quand on dit nos enfants, est-ce qu'on est responsable de nos enfants? Il faut fixer un âge. Jusqu'à quel âge on est enfant?
18 ans, normalement.
Moi, il n'y a pas d'âge.
Moi, il n'y a pas d'âge.
OK. On est considéré comme un enfant jusqu'à 18 ans légalement. Et pour autant, 18 ans, ce n'est pas la majorité sexuelle en France qui est en dessous. Donc, c'est on voit bien qu'il faut définir des tranches d'âge avoir l'impact.
Elle est à quel âge?
Allez, c'est une bonne question. Allez, elle est à quel âge selon vous?
C'est pas 16.
C'est 16 ans.
16? Qui dit autre?
C'est 13, non?
Donc, moi, je crois que c'était 13. Hein.
13.
Moi, je suis pour 13, moi.
Qui dit autre?
Non, ça, c'est l'obligation parlé, de l'école.
Pour toi, Aminata?
Moi, j'aurais dit 16. Mais 16. C'est 13, je trouve que c'est tout.
Pas tout? Selon toi? Et ben en fait c'était 15 ans, 13 ans, ça, en fait il y a un pourparler sur justement abaisser l'âge de la majorité sexuelle des enfants. On va y aller. Au bénéfice de qui ? Sauf que en fait, la question qui est en train de se poser, c'est que on dit que 15 ans majorité sexuelle, d'accord ? Il y en a qui ont voulu l'abaisser à 13 voire 12 ans. Il y avait une négociation qui était possible en disant qu'à 12-13 ans, bah, normalement, ton enfant, il est censé pouvoir décider de ce qu'il avait envie de faire de son corps.
J'allais dire une dinguerie, mais sinon, on va être
censuré. Allez, on en parle. si, on en parle.
C'est de là.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'on est dans une société de pédophiles.
Totalement.
Totalement.
C'est trop tôt.
À 12 ans, bah tu sais même, t'apprends, tu finis l'alphabet, tu de quoi on parle. À 12 ans.
Non, moi pour moi, hein, là, ce dont tu viens de parler, là, pour moi, c'est qu'on est dans une société de pédophiles.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit au bénéfice de qui ?
Oui,
parce que pour moi, tu peux pas dire qu'à 13 ans, 14, voire 15, tu es assez éclairé pour comprendre ce que tu fais. C'est pas vrai.
Aujourd'hui, aujourd'hui légalement, c'est pas, en tout cas, l'âge en France, il est fixé à 15. Pas 16, mais 15. Mais il y a eu un moment où il y avait des échanges pour l'abaisser à 13.
Ouais. Même des femmes de 25 ans, des fois, elles ne savent même pas ce qu'elles font.
Mais il y avait eu un cas, non ? C'est pour ça qu'il y avait eu un sujet sur ça.
Il y avait eu un sujet, en fait, d'une fille de moins de 15 ans.
C'est ça.
Qui, du coup, a des relations sexuelles avec un jeune de plus de 18 ans.
Exactement.
Et qui part du principe qu'elle était amoureuse et qu'elle était consentante. Mais est-ce qu'à 13 ans, on est consentant ? C'est quoi l'amour ? C'est quoi la relation à l'autre ? Même à 15 ans, hein, la question peut se poser. Pour autant, la majorité sexuelle en France est à 15 ans. C'est pour ça que je posais la question de quel âge ont les enfants ? Et quand on dit enfants, c'est quel âge ? Parce que si on dit que la majorité légale, pour signer un papier, pour avoir le droit de décider de passer le permis, de faire une sortie scolaire, on demande à tes parents jusqu'à 18 ans de signer. Mais par contre, pour tout ce qui est lié à la sexualité, et ben à partir de 15 ans, tu es libre. Donc tu sais, déjà, il y a un décalage.
Tu sais, pour moi, déjà, c'est selon les personnes, déjà, dans un premier temps. Mais si on devait mettre un espèce de barème pour tout le monde, pour moi, ce serait 18 ans. Pourquoi ? Parce qu'à 18 ans, tu peux travailler. C'est-à-dire que si tu as un enfant, après, tu peux subvenir aux besoins de ton enfant. Donc pour moi, c'est logique que ce soit 18 ans. Parce qu'à 18 ans, tu peux travailler. Mais avant, parce que pour moi, là... une jeune fille, même une enfant, a une relation sexuelle, elle fait comment ? Après, si elle a un enfant, elle va assumer comment ?
Pour moi, la conversation, elle est complètement folle, là. Je me suis retirée. Non, mais à un moment donné, il faut choisir ses combats. À 13 ans, pour moi, il faut arrêter. T'achètes des bonbons, tu commences à pouvoir traverser. J'exagère, hein, mais il faut arrêter.
Il y a eu un pourparler, mais c'est pas 13 ans, c'est 15 ans. La
mais
majorité en France, c'est 15 ans.
Pourparler, c'est dingue, quand même. Tu vois ce que je veux dire ? 13 ans, c'est... je sais pas. On est en quelle classe à 13 ans ?
À 13 ans, on est en 5e ou 4e.
Après, maintenant, les filles de 13 ans, elles font grandes, mais je me retire. Je ne prendrai pas part.
Non, regarde, ma dernière, elle a 12 ans, elle va avoir 13 ans.
Elle est en 5e.
Non, mais c'est ton bébé, faut pas... Non.
Non, non, non. Non, mais c'est une façon de...
Ah, mais
de dire,
il voit la chose, là.
Mais oui, mais de toute façon, il y a des sujets. C'est pour ça que c'est important de compartimenter pour aussi pouvoir jauger un peu la responsabilité à qui elle incombe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est factuel. En France, c'est 18 ans, la majorité. Là où aux États-Unis, par exemple, à 18 ans, tu accèdes à une partie de tes droits et à 21 ans, pleinement, tous tes droits. D'accord ? Ils ont même décalé. Ils se sont même dit aux États-Unis, à 18 ans, tu es capable de prendre certaines décisions. Mais par contre, l'alcool, les boîtes de nuit, etc., c'est 21 pour vous.
Ils
d'accord ? En France, 18 ans. Oui, vas-y.
J'ai pas surtout.
Pas surtout, pas surtout, ils n'ont pas raison. En France, c'est 18 ans, sauf si tu es émancipé. D'accord ? Donc, il y a des jeunes de moins de 18 ans qui demandent l'émancipation et qui, du coup, sont assez matures et, en tout cas, ont le droit de faire leur choix. Mm-hmm. Ça, c'est d'un point de vue légal, permis de conduire, accès au travail, ne plus avoir les autorisations parentales, etc. Pour tout ce qui est lié à la relation affective et sexuelle, c'est 15 ans. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de responsabilité. Entre 0 et 3 ans, on va dire qu'il y a une catégorie où l'enfant, clairement, il est en devenir, c'est une page blanche. Et clairement, c'est l'adulte qui a un impact sur sa façon de raisonner, de penser, etc. Ensuite, on a 3-6 ans. Les 6-12 ans, 12-18 et 18 et plus, d'accord ? Donc, du coup, pour revenir sur la responsabilité, quand ton enfant entre 0 et 12 ans, on va dire, pose un acte, on peut peut-être partir du principe que la responsabilité des parents est clairement engagée et engageante. Alors qu'à partir de 12 ans, bah là, le libre arbitre, la construction de l'enfant lui permet de faire des choix et peut-être de s'opposer à ce que les parents demandent. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que bah, quand on est dehors, bah, si je vois la Franprix à 12 ans, 13 ans, 14 ans, la responsabilité de mes parents, elle n'est pas forcément la même que si je vole à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Quoique, même à 5, 6 ans, 7 ans, il va le prendre parce qu'il ne sait pas qu'il y a cette notion d'acheter.
Exactement.
Et c'est à l'adulte de lui expliquer qu'on ne peut pas prendre.
Exactement.
Parlons un peu de valeur. En plus, du coup, on était sur justement ce décalage entre l'âge réel et l'âge légal. Quelles sont les valeurs qu'on transmet à nos enfants? Est-ce que ce sont des valeurs qu'on a en tant que personne, qu'on va transmettre dans l'éducation ou pas forcément? Des fois, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de bonnes valeurs. Je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, je suis un braqueur. Donc, le vol, je n'ai pas de problème avec ça. Et pour autant, est-ce que du coup, quand je vais avoir mon enfant, je vais vouloir lui inculquer les valeurs du bien et du mal, ou est-ce que du coup, c'est complètement déconnecté par rapport à ce que moi, je pose comme acte? Est-ce qu'il y a cette notion d'exemplarité?
Bah pour moi, tout à l'heure, je parlais de guide, oui. C'est-à-dire que moi, ce que je prône à âge 24 à mes enfants, c'est d'être une bonne personne.
Ouais,
mais c'est la base, moi. C'est-à-dire que moi, je leur dis, vous devez être une bonne personne. Et après, le fait de dire ça, après, il y a plein de choses qui découlent de ça. Aider son prochain, être droit, ce genre de choses.
Rukia ?
Non, j'allais rebondir sur ce qu'il dit. C'est dire qu'on est une bonne personne, mais aussi montrer qu'on est une bonne personne. Ça va avec, du coup, avec les actes. Par exemple, je vais donner à manger à un passant ou de l'argent. Bah, je vais lui apprendre à aider les gens, quelles que soient les personnes que tu vois ou que tu fréquentes ou autre. Comme ça, quand je ne serai pas là, bah, il va le faire aussi. Donc, il y a l'acte et il y a aussi les dire.
Voilà. L'exemplarité par le faire.
Exactement.
Aminata, en termes de valeur? Aminata, dès que je parle, elle me dit hey, « reviens tout à l'heure ». Aminata, est-ce que dans tes valeurs, j'insiste, est-ce que dans les valeurs que toi tu as aujourd'hui, il y en a certaines que tu aimerais vraiment
transmettre
à tes enfants?
Bah, la loyauté, la générosité.
Ouais.
Je trouve que c'est des valeurs super importantes.
Je t'aime beaucoup, oh là là. Mais je t'aime bien, Aminata. Oh là là. Non, faut continuer.
Ouais, la loyauté, l'honnêteté, tu disais. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ne pas transmettre? Et réfléchissez tous, parce que je vais tous vous poser la question. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait, qu'on aimerait ne pas transmettre à nos enfants?
Son aigreur.
Ok.
Ouais, moi, mon impulsivité.
Ton impulsivité, Maya?
Quelque chose que je fais que je n'aimerais pas transmettre à mon enfant. La fille qui est trop parfaite, j'aurais réfléchi, qu'est-ce que je veux pas? Non, vraiment, que je fais, je ne sais pas. Des fois, on me dit que le courage, là, faut que je dose. Mais moi, je ne veux pas que mes enfants aient dose, parce que pour moi, le courage ouvre les portes que la vie ne t'ouvre pas. Donc, je ne sais pas, là. Comme ça, je ne sais pas.
Okay.
Que je fais, désolée, je ne sais pas.
Non, mais réfléchir, ok.
La naïveté.
Ouais.
Pour arrêter de croire que tout le monde, le monde, il est rose, le monde, il est bisounours. Que le monde, il est très méchant. Très, très, très méchant. Donc, dès le plus jeune âge, il faut le capter.
Tu sais, quand tu dis le monde, parce que c'est intéressant et tu l'as dit à plusieurs reprises.
Ouais.
Ça fait plusieurs fois, là, durant
j'en ai des
émission,
choses à dire. Non, je rigole.
Que tu dis que le monde est méchant.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Enfin, de par mes expériences, je l'ai vu. J'ai pu faire confiance, ou que ce soit amicalement ou pas, à des personnes qui je pensais, bah, qui étaient sur la même longueur d'onde que moi. Et au final, bah non, en fait, le monde, il est méchant. Et quand ces personnes-là me disent « le monde, il est méchant », c'est là où j'ai compris que le monde, il était méchant. Et en fait, ouais, des fois, faut plus faire attention que se lancer et dire, par exemple, « j'ai envie d'aider cette personne-là ». Tu vas l'aider, bien évidemment,
mais tu sais pas comment la personne va te rendre l'appareil. Oui.
Mais est-ce que les enfants n'ont pas besoin de cette naïveté, de cette part de naïveté? Est-ce que justement, dans la société d'aujourd'hui, on n'enlève pas trop rapidement cette part de naïveté à nos enfants?
Je peux?
Ouais.
Ouais, ce que tu as dit, ça me parle. S'il y a vraiment quelque chose, c'est peut-être d'être trop sincère à mes enfants, voilà. Je leur dirais. C'est un monde où je pense que la sincérité, ça paye pas.
Mais du coup, les enfants.
Est-ce que les enfants... alors, je prends juste mon exemple. On pourra amener tous les défauts, mais je pense que je suis une personne vraie. Quand je dis oui ou je fais quelque chose ou j'apprécie, c'est vrai. Mais j'apprends que dans ce monde, bah, des fois, les gens, en fait, ils n'ont rien à faire de toi. Je vais faire attention à mes mots. Et que c'est comme ça. Ce n'est pas les gens qui sont bizarres. C'est que la société est comme
ça.
Et c'est ça qui est paradoxal. Mais les enfants, il faut leur laisser cette part de naïveté, du monde de bisounours, tout en régulant. Tout en structurant, tu vois. Mmh. Genre, OK, mon enfant, mon fils, mais tranquille.
Tu vas te faire avoir, vas-y.
Il doit se casser la tête, mais ouais, il va comprendre. Ouais. La vie, elle va le corriger, toi.
Ouais.
Et voilà.
Des fois, je regarde mon fils, il est tout petit, il sourit, ouais. Je dis, ah, tu vas te faire carotte, toi.
Voilà.
Toi, tu vas te faire carotte.
Oh là là.
Il sourit, pourtant, c'est un bébé.
Mais c'est vrai, on voit des fois leur naïveté. Mmh. On a envie de la prévenir, mais est-ce que l'apprentissage de la vie, c'est pas aussi, tant qu'il n'y a pas de gros risques et de gros enjeux, de laisser l'enfant naïvement.
Est-ce que toi, en tant que maman ours, parce que ça se voit que tes enfants, c'est... Hein, est-ce que tu... Là, je ne sais pas, je te demanderai vraiment à toi. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué quand tu retrouves tes petites puces qui reviennent avec le cœur brisé pour quelque chose que... Non ?
C'est super difficile. Ouais, moi, j'ai...
Est-ce que des fois, t'as pas envie d'aller
Je me suis vue des soirées m'allonger.
Pleurer avec elle.
Ouais, je m'allonge à ses pieds et je la regarde et je dis, viens, on pleure toutes les deux parce que là, il n'y a qu'à pleurer.
Et
c'est bien de pleurer parce que là, on ne peut faire que ça. Mais il y a des fois où tu la vois venir la balle, toi, en tant que parent.
Ouais.
Ça me déchire le cœur, ça me brise le cœur et je la laisse la prendre quand même parce que je pense que c'est important. Notamment, moi, j'ai 3 filles. Ça veut dire que la relation aux autres, au père, c'est compliqué. Et quand on a une fille, il y a encore plein d'enjeux entre filles. Et moi, j'ai vu ma fille avec des bandes de copines où tu vois tout de suite
la méchante.
Tu vas te manger la balle. Et c'était important qu'elle se la prenne parce qu'on te parle, on te prévient, on discute, on essaye de t'orienter, mais tu ne veux pas voir. D'accord ? Elle t'a fait mal une fois et tu lui accordes ton pardon 2 fois. La 3e fois, elle va recommencer. Pourquoi tu veux qu'elle ne recommence pas ? Et l'enfant, naïvement, il pense que non, ça va le faire. Donc, tu lui laisses prendre la 3e balle et après, elle revient en disant, là, j'ai compris. Parce qu'en fait, en tant que parent, on va parler, mais nos enfants, ils se disent, bon, déjà, on est les parents, on ne comprend rien. En plus, on est vieux, on est has-been. Par contre, quand tu te manges la 3e balle, que tu reviens en pleurant, je te dis, ça fait 3 fois qu'on a cette conversation. Pourquoi tu veux qu'elle change ? C'est-à-dire que si cette personne, elle n'est pas gentille et qu'elle n'a pas de bonnes valeurs, ça ne va pas changer.
C'est mort, elle est comme ça, quoi.
Et si elle ne te le fait pas à toi, elle le fera à d'autres. Donc, quand tu vois le truc venir, reprends. Et du coup, c'est compliqué. Parce que du coup, on ne sait même pas comment doser, dans le sens où après, elle devient complètement hermétique. Et c'est pour ça que je disais, cette part de naïveté, elle est importante. Parce que du coup, quand on les prévient trop, ils deviennent hermétiques et durs.
C'est vrai.
Ils se forgent.
C'est la part il faut réussir à avoir un juste milieu dans le...
C'est pour ça qu'être parent, c'est trop dur.
Bravo.
Et en plus, ce qui est dur dans... Parce qu'en fait, le métier, parce que c'est un métier en vrai, à plein temps.
Sauf qu'on n'est pas payé.
En fait, être parent, c'est un métier en plein temps. En plus, c'est un CDI. Du coup, c'est compliqué parce qu'il y a des étapes. Et parfois, on a l'impression d'y être arrivé. Parce qu'on se dit, ah voilà, mon enfant, elle est comme ça, elle obéit, excusez-moi. Elle comprend ce qu'on lui a inculqué, du coup, donc elle va dans le sens dans lequel on veut qu'elle aille, en tout cas. Mais il s'avère que des fois, il y a des gens qui viennent dérégler.
Dérégler le marché.
qui viennent tout dérégler. Et du coup, tu dois recommencer.
Et tu le vis comment ça ?
Des gens ou des événements qui viennent dérégler ce que toi, t'as mis en place. Ouais. Et tu dois tout recommencer. Et en fait, le fait d'être parent, pour moi, c'est un éternel recommencement.
Vous, les filles, est-ce que vous avez l'impression, du coup, vous qui êtes encore relativement jeune, moi aussi, je suis jeune, est-ce que vous avez l'impression que il y a certaines personnes qui ont essayé de dérégler la machine ?
Ils ont peut-être essayé, mais peut-être qu'ils n'ont pas réussi. Dans le sens où bah, t'es libre de faire ce que tu veux. C'est pas, par exemple, t'arrives dans un lycée, un truc tout bête, hein, ta copine, elle fume ou un truc comme ça. Si toi, t'as pas envie de fumer, bah, tu le fais pas.
C'est précis encore, c'est bien.
Non, mais
c'est pas mal si tes soeurs écoutent ou quelqu'un.
Non, mais c'est bien parce que c'est un vrai exemple.
Mais c'est des exemples quotidiens, en fait. Mm-hmm. Et si, par exemple, toi, ça t'a jamais tenté de... t'as jamais tenté, par exemple, de fumer ou autre et que c'est pas quelque chose qui te plaît, bah, ça te montre que t'es sûr de toi et de la personne que t'es, et puis voilà.
Souvent, on est intervenu, et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés ici dans le 13e, sur les RICS, voilà. Et souvent, les jeunes, ils disent mais ça va plus vite que nous, en fait. C'est-à-dire que t'es là par rapport au fait que t'aimes bien la personne, ça dépend qui est-ce qui est touché, ça dépend où est-ce que t'es, dans quel mood tu es. Et du coup, est-ce que là, il n'y a pas une question de dérégler la machine? Ça veut dire, t'as des valeurs, et les valeurs que tes parents t'ont données, l'amour de l'autre, ne pas faire de mal à l'autre, etc. Et pour autant, à ce moment précis, tu vas intenter à la vie de l'autre. Tu vas et tu cognes, et des fois il y en a qui sont par terre à 100 et personne s'arrête et ça continue à cogner. Du coup, est-ce que là il y a pas des dérégleurs de machine?
Ouais,
je pense que c'est un événement qui vient d'arriver.
Minata,
oui,
pourquoi? Oui, genre qu'est-ce qui fait qu'un jeune qui a des souvent, en plus ça tombe tout le temps sur celui où tout le monde dit mais c'est un bon, lui. Je comprends pas ce qui s'est passé, parce que c'est un bon gars, il est respectueux, il est super sympa, etc. Comment ça, c'est lui? Et est-ce que toi, tu as une idée sur le fait que, du coup, l'éducation qu'on reçoit et le fait d'être impliqué dans du sale, ça, à bout d'un moment, ça ne fait plus le poids?
Bah ouais, parce que dehors, je peux faire... Bah, je rejoins un peu ce qu'elle disait tout à l'heure. Dehors, tu peux faire certaines choses et à la maison, tu ne vas pas être pareil. Enfin, ma mère, elle va m'inculquer des valeurs et dehors, je ne vais peut-être pas les respecter. Enfin, je vais un peu les oublier. Si demain elle se fait tabasser dehors et je suis avec elle, ben bien sûr, je vais sauter. Oh, non, mais c'est logique.
Oh, wow.
Alors que de base, je ne suis pas comme ça. Mais c'est logique. Enfin, je ne sais pas.
Et vous?
Je ne pense pas trop parce que je suis très chouette.
Ouais, si, c'est très clair ce que tu as dit.
Moi, pour moi, dans la société, il n'y a que des dérégleurs.
D'accord.
Autour de nous, il n'y a que des gens qui dérèglent, en vrai.
J'allais dire ça.
Mais parce qu'eux-mêmes, ils sont déréglés.
Oh, là, t'es allé loin. J'aimais bien le début de ta phrase.
Ouais,
et,
donc,
et puis après, non, tu vois, je me désolidarise.
Non, mais quand je dis eux-mêmes, ils sont déréglés, c'est dans le sens où beaucoup de personnes ont des vécus, des traumas, d'accord, liés à l'environnement, au contexte. Et du coup, lorsqu'ils sortent et qu'ils sont au contact des autres, bah, y a des choses qui se transmettent. Que t'as pas forcément toi dans ton contexte.
Mmh.
Donc c'est pour ça que je dis que en vrai on est peut-être entouré de dérégleurs, mais des dérégleurs qui ne sont pas, qui sont involontaires en réalité. Donc, parce que je donne un exemple. T'es dans un groupe, d'accord? T'es dans un groupe. Il y a un individu dans ce groupe qui s'adonne à des agissements qui sont répréhensibles, d'accord? Lui, c'est son contexte, c'est son environnement. Maintenant, vous êtes dans le groupe. La personne qui est habituée à faire ça, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle sera dans le groupe? Elle va proposer aux autres.
Mm-hmm.
Donc, comme tu le disais, il y a ceux qui sont forts qui vont refuser, mais il y a ceux qui sont faibles qui vont accepter.
Ouais.
Alors, c'est quoi, c'est une question d'estime, de soi?
Et en fait, tout au long de la vie, c'est ça, en fait.
Mm-hmm.
On est testé. Au quotidien, on est testé, en réalité. C'est-à-dire que notre enfant... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que dès lors que notre enfant, il se sociabilise, il sort...
C'est fini.
C'est compliqué.
Ouais.
Et c'est là où on voit si ce qu'on lui a inculqué, c'est solide. C'est à ce moment-là qu'on le voit en réalité. Parce que nous, on a beau donner l'éducation qu'on veut à nos enfants, lorsqu'ils sortent et qu'ils sont en lien avec les autres, c'est là où ils se confrontent. Et qu'on voit si ce qu'on lui a transmis est solide ou pas. C'est à ce moment-là en réalité.
Maya.
Mais du coup, Barbara, est-ce qu'on n'est pas tous des dérégleurs? Alors, on est tous le dérégleur de quelqu'un.
Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Non.
T'as dit, dehors, il n'y a que des dérégleurs et tu t'es...
Non,
mais quand il sort dehors, il devient dérégleur aussi.
Ouais. Non, moi je m'inclus.
Je sais
non,
pas, est-ce que nous sommes...
Moi je m'inclus. Parce D'accord. que étant plus jeune,
ouais.
pas maintenant, mais étant plus jeune, oui.
Ouais. D'accord.
En plus, moi j'étais meneur, donc du coup, oui, forcément.
Mais même aujourd'hui,
c'est important, de le dire.
Mais même aujourd'hui, en fait, moi je suis éducatrice. Mais oui, parce que moi je suis éducatrice spécialisée. Ça veut dire que mon métier, c'est travailler là où il y a de la souffrance en fonction de, un, ce que j'ai appris, deux, ce que je suis, trois, ce qu'on nous laisse penser que la société attend de nous. D'accord ? C'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis au contact d'un groupe, que ça soit de jeunes, de familles ou de professionnels, tu es un dérégleur, puisque ton travail, c'est de déconstruire pour reconstruire. Mais reconstruire quoi ?
C'est ça.
C'est-à-dire que souvent, nous, la première question qu'on pose aux jeunes, c'est pour toi, c'est quoi la réussite ? Parce que si on m'appelle pour travailler sur la remobilisation ou la réussite d'un jeune ou la sortie de parcours qui sont des parcours de souffrance, ça veut dire que je viens en tant que dérégleur. Je viens dérégler ce que tu fais à l'instant T, en fonction de ta croyance de l'instant T, pour venir apporter un autre réglage. Et après, la différence, elle va se faire en fonction de l'éducateur que tu rencontres sur ton chemin. Est-ce qu'il va prendre en compte, toi, ce que tu veux, ce que tu mets derrière la réussite et tes projections ? Et ensuite, il va essayer de trouver quelque chose à mi-chemin entre ce qu'il pense à l'instant T être une bonne chose pour toi et ce que toi, tu veux ? Ou est-ce qu'il vient juste en mode... ce que tu fais, c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais finalement, t'es un dérégleur. Ouais, parce que t'es en train de dire à l'autre, est-ce que t'es sûr que ce que tu fais est une bonne chose pour toi ?
Oui.
Moi, en fonction de quoi ?
Moi, je suis d'accord.
En fonction de ce que moi, je pense être une bonne chose à l'instant T. Et est-ce que nous, les adultes, les parents, on passe pas notre temps à dire à nos enfants ce qui est bon pour eux ?
Aussi, mais je pense que ça part toujours d'une bonne intention, tu vois. Contrairement à une personne qui viendra de l'extérieur, qui n'a pas connaissance de ton environnement, de ce qu'on t'a appris, de comment est construit ton environnement, si tu vis dans une famille monoparentale ou t'as tes deux parents, tu vois. Je pense
mais
que...
tout à l'heure, Okea disait, nous les jeunes de notre génération, on est rebelles.
Ils sont fous.
Non.
Non, vous pensez avoir toujours raison, mais vous n'avez pas toujours raison, les parents.
Et vous pensez que vous nous apprenez. Moi-même, je ne suis même pas parent. Mais quand vous écoutez,
si t'es parent.
Non, voilà, tu vois,
non, je suis des parents. Sortir...
Mais pas de. En fait, le truc. Moi, je suis genre moi, je suis la dernière comme toi de ma famille. Donc, mes nièces, elles croient qu'elles ont mon âge, tu vois. Okay. Pourtant, j'ai pas tout leur âge, j'ai 34 ans. Elles en ont 24, 25, elles me parlent, elles croient qu'on a le même âge. Et j'ai l'impression que vous pensez. Mais vous pensez apprendre tout à vos parents, en fait. Mais on m'a appris que c'était normal. Non. Donc je me prépare. En fait, vous connaissez tout. Vous apprenez tout. Ils sont ringards. Et c'est à moi qu'on vient de dire que ma sœur est ringarde. Donc je dis, OK, d'accord, c'est pas grave, elle est has-been. Vas-y, moi, peut-être, je vais comprendre. Moi aussi, je suis has-been. Donc je pense que cette génération, elle est vraiment dans un truc où il y a une scission. Genre, les anciens n'ont rien compris. Vous, tout est nouveau. Non, mais... Donc c'est vous qui apportez la fraîcheur. Donc il faut vous écouter.
Ouais, mais c'est de la faute de qui, ça ?
De la société, des réseaux sociaux.
Elle était trop fermée, là. En fait, avant. Enfin...
Vas-y.
Les gens, ils réfléchissaient d'une façon... Enfin, ils avaient trop l'esprit fermé.
D'accord.
Et nous, on arrive avec une nouvelle ère,
Tout à fait.
Voilà. Une nouvelle ère qui est un peu plus ouverte.
Ouais, je comprends.
On est un peu plus ouvert d'esprit.
Je vois ça.
Donc,
vous dites que vous êtes plus ouvert, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a, plein de régressions. Il y a des choses qui avancent, sur lesquelles vous êtes bien plus ouvert parce que vous avez une ouverture sur le monde. Mais moi, je trouve que la nouvelle génération, elle régresse. C'est-à-dire qu'il y a des replis communautaires que nous, on avait réussi à faire sauter. Comme. C'est-à-dire que nous, plus on avançait et plus on avait des ouvertures, on se mélangeait beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des replis communautaires. Il y a des droits pour lesquels on s'est battu. Et la jeunesse d'aujourd'hui, elle veut retourner dans ce travers en disant quoi, si on veut, on a le droit. Donc moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes
comme
pas... Il y a plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, quand je fais la formation sur la laïcité, on parle, on parle d'un sujet qui est très important, c'est-à-dire la laïcité, à la base, c'est la séparation de l'État et des religions. De l'Église à l'époque, mais aujourd'hui, le problème, c'est que justement, elle ne s'est pas adaptée. D'accord ? On s'est battu pour que l'État et les religions soient différenciées, etc. Et aujourd'hui, quand on aborde le thème de la laïcité, il y en a plein. Qui veulent remettre le prisme de la religion, n'importe quelle religion, devant l'État. Ou dans l'État, ou dans les décisions institutionnelles, dans tout.
Sopark, présidente.
Et du coup, en fait, là où il y a un repli, c'est qu'on a fait en sorte que tout le monde puisse vivre sa religion et sa croyance comme il le souhaitait. Et que de l'autre côté, tout le monde veut que les décisions soient prises en fonction d'un prisme religion, quelle que soit la religion. Juifs, cathos, chrétiens, musulmans, tous, tout le monde. Et du coup, en fait, pour moi, c'est un retour en arrière.
Mais tu vas trop loin, là.
Ouais.
Moi, je vais te donner un vrai exemple. Les relations hommes-femmes.
Ah bah oui.
C'est-à-dire que les femmes se sont battues très longtemps pour être émancipées. responsable et autonome.
Ouais.
Et aujourd'hui, dans les discours qui sont propagés...
Désolé, hein, cher auditeur, nous, on mange, on boit du thé et tout. Faites la même chose à la maison. Hein.
Dans les discours qui sont propagés, ouais. C'est genre... moi, je dois me faire entretenir par... En fait, les femmes disent... Oui. Ouais, elles veulent être entretenues par des hommes. Alors que pendant des décennies, les femmes se sont battues pour l'inverse.
Ah, tu parles du 50-50 ?
Non, je parle en règle générale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui... Beaucoup de jeunes, pardon, qui revendiquent... Ah, moi, il me faut un homme qui m'assume. Mmh. Alors que les femmes se sont battues pendant des décennies pour que ce soit l'inverse et qu'elles soient autonomes.
Mais à cause de quoi ? Mélanger tout.
Ah, voilà, tu vois. Vas-y, parle-nous. On est des dinosaures, parle-nous. On mélange tout ?
Mélanger tout.
Vas-y, dis-nous.
Une femme, c'est censé être une princesse, c'est censé être un diamant.
Génération Z.
Oh là là.
Non, vas-y, dis-nous, dis-nous.
Donc, une femme, bien évidemment, elle doit être indépendante. Voilà. Mmh. Née. Si.
Non. Vas-y, ma chère, vas-y.
Je rigole déjà. Si, vas-y, parce que c'est trop intéressant.
C'est important qu'on ait votre regard, vraiment. Okay.
Ce que je veux dire par là, c'est que...
Minata, elle a repris son micro.
C'est une mytho.
Elle a dit c'est une mytho, vas-y.
C'est pas une mytho. En gros, une femme, elle doit être indépendante, mais si par exemple, demain, elle se met avec un homme, l'homme, il doit être plus élevé que la femme. Mm-hmm. Ça paraît...
Et pourquoi ?
Ouais, vas-y, Aminata.
Aminata est pas...
Chroniqueur. Oui, et pourquoi ?
Parce que, en fait, je vais donner un exemple. C'est pas le mien. Voilà. Par exemple, une fille qui a toujours été, entre guillemets, studieuse, qui a été dans les plus grandes facs, etc., etc., qui a peut-être deux masters, etc., enfin, qui s'est tuée, du coup, à l'école, et qui a, bah, du coup, la vie qu'elle veut, qu'elle rêve, etc., enfin, elle gagne beaucoup, elle gagne très bien. Bah, va pas regarder un homme qui, par exemple, n'a pas fait d'études, qui bah, traîne dehors, etc. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que... Je sais pas comment expliquer.
Mais est-ce que ça, c'est la même chose que le fait de vouloir être entretenu ? C'est-à-dire que être entretenu, ça veut dire que l'autre prend soin de toi, l'autre te sort, t'achète...
Et toi, t'achète, tu fous
rien, du coup. Bah oui, être entretenu. Vas-y, Aminata, reprends ton micro. Aminata, reprends ton
micro. Mets le micro devant ta bouche, dis-nous.
Pourquoi toi, tu dis arrête de faire genre, ça veut dire quand tu dis c'est une mytho, c'est-à-dire ?
Qu'est-ce que tu penses ?
Tu veux qu'ils prennent soin de toi totalement ?
Bien devant le micro, s'il te plaît, qu'on entende bien.
Totalement, c'est-à-dire qu'ils couvrent tous les frais.
Tout. Il faut se dire la vérité, aujourd'hui, les femmes ont ça. Bah ouais.
Mais pourquoi ?
En fait, il y a la nouvelle génération et on va mettre aussi en parallèle, du coup, la religion. Nous, du coup, on va prendre les bons côtés. Oui, que l'homme, il doit subvenir aux besoins de la femme entièrement. Et que l'argent de la femme, bah, du coup, c'est qu'à la femme.
Ok. Donc,
ça, c'est notre nouvelle ère. Mmh. Oui, notre nouvelle ère. Mais on est indépendante. Mmh. Du coup, on va travailler, on va faire des études, on va avoir des belles voitures, etc.
Vous coffrez quoi ?
On coffre, mais pour nous, pas pour lui. Et lui, à l'inverse, il va coffrer pour nous.
Voilà. Donc, retour en arrière.
Ouais.
Est-ce que tu penses pas que le fait de pouvoir subvenir à ses besoins, c'est aussi en termes d'estime de nous-mêmes, de valorisation, etc. C'est important. Ça veut dire, est-ce que ce raisonnement, il est pas pour des personnes qui sont pas encore, comment je peux dire ça de façon
avec du tact,
ces personnes. Genre ce raisonnement là pour une femme qui est pas encore arrivée à maturité, il se tient. C'est-à-dire, mon mari, il m'entretient, il m'achète tout ce que je veux, etc. Sauf que plus tu avances dans la vie et plus tu veux être justement indépendante et prouver que tu apportes ta part du marché et que tu ne dépends pas de l'autre. C'est-à-dire, être en capacité de travailler, de subvenir à tes charges, etc. C'est aussi quelque part rassurant parce que si l'autre part, mais tu peux faire le job, tu peux payer ton loyer, tu peux subvenir aux besoins de tes enfants, tu peux, tu vois. Et quand l'autre est là à tes côtés, eh ben, tu lui montres aussi que comme lui, tu es vaillant, comme lui, ça te tient à cœur de participer au bien-être de ton foyer, à l'amélioration, ensemble, tous les deux, ensemble.
On vous a dit, le monde, il est méchant. Le monde, il est méchant. Tu vas aider, te construire, avec, par exemple, avec un homme, tu vas l'aider, hein.
Mais lui aussi t'aide.
Oui, on va s'entraider, etc. Mais arrivé à la finalisation, vous allez voir.
Mais c'est quoi la finalisation ? Parce que le but d'être deux et de construire son foyer à deux, c'est de rester ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, tu enrichis le foyer ensemble. Ouais. Et si on va travailler tous les deux, on améliore nos conditions de vie à tous les deux.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de penser déjà comme en fait, une fatalité on a... de on va pas finir ensemble.
Non, c'est pas, donc je coffre. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est plus.
Dit oui.
Oh là là. C'est bon, des fois on a des débats entre ouais. copines, des fois on rigole, des fois je demande si, je demande. Regardez, elle est choquée.
C'est pour non. ça que le concept parle à ma sœur, il serait mortel.
Exactement. Ouais. On va bien échanger. Si toi tu veux payer. Bref, peu importe. Non, ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, quand tu te mets avec quelqu'un, bah, tu vas vouloir l'élever comme lui va vouloir t'élever. Et ensemble, vous allez, comme on dit, tout seul, tu vas vite, mais ensemble, on va plus loin. Mm. Donc, non, mais je rigolais.
Non, mais je t'aime bien.
Non, mais on, non, a, non, mais on adore ce débat. Parce que
non, mais je rigolais. Ça veut dire que moi, par exemple, si demain, je me mets avec quelqu'un, bah, je vais essayer, je vais tout faire pour que la personne, elle devienne meilleure et qu'elle devienne bah, la plus performante pour moi, pour nous. Mais
bah c'est... oui, parce qu'elle va, elle va avoir besoin de beaucoup d'argent pour t'entretenir.
Non, pas forcément. Parce que si, par exemple, moi, je vais me tuer, entre guillemets, à l'école, ou etc., avoir un bon diplôme ou autre, c'est forcément, c'est d'abord, c'est pour moi, mais subvenir à mes besoins moi seule. Et si, au pire des cas, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a la même vision que moi. Maintenant, si cette personne-là n'a pas la même vision que moi, pour moi, j'estime qu'on n'a rien à faire ensemble.
Très bien. Et du coup, dans l'éducation des enfants, quand, par exemple, tu prends le parti de dire... que l'autre doit subvenir aux besoins du foyer, etc., de A à Z. Parce qu'on a entendu des filles, elles ont dit le loyer, la voiture, les factures, les courses, tout. T'as 18 ans.
Ah, mais c'est impossible.
T'as 20 ans. Mm. Si ton copain, il est capable de couvrir toutes tes charges, soit il a 40 ans de plus que toi,
ouais.
soit c'est un dealer, un braqueur, un cambrioleur, ou je sais dans quel recel il est. Parce que comment tu vas me dire qu'un jeune de 21 ans, qui lui-même, s'il a ton âge, est aussi dans les études, peut se marier avec toi, payer le loyer, payer les courses, payer les charges, avec le coût de la société aujourd'hui, payer ta voiture, payer sa voiture. Il a 21 ans. En gros, c'est est-ce que tu n'es pas en train de lui demander de faire l'impossible ? Il a 21 ans, il va à l'école, mm-hmm. comme toi. Mm-hmm. Donc, il vit chez ses parents, comme toi. Mm-hmm. Mais le jour où il veut devenir ton conjoint, ton mari, il faut qu'il puisse payer le loyer, la voiture, les courses, les factures, tes vêtements, tes sorties et les vacances. Il va chercher où l'argent ?
Oui, c'est trop, mais tu sais, il y a des gens à qui on ouvre un compte. Il y a des gens à qui on ouvre un compte et depuis, tu vois, depuis le bas âge, et après leurs parents.
Donc
leur
le PL que pas... tes parents aient ouvert depuis ta naissance.
Donc ça veut dire que tu vas payer ton loyer avec ce que ta maman et papa ils ont mis.
Non, c'est pas ma mentalité. C'est pas ma mentalité. Demander à papa, il n'y a pas de problème. Mais si ça arrive, c'est que sûrement ce jeune homme, parce qu'aujourd'hui aussi, les jeunes, ils veulent vraiment montrer que c'est des hommes, que c'est des grands.
Mais où ils vont chercher l'argent ?
C'est ça, en fait. L'argent que papa et maman ont mis.
Mais quel papa et maman ont mis ? Attends, parlons clairement.
On ouvre des comptes aux enfants pour ceux qui peuvent, qui font en sorte que peut-être qu'à ce moment-là, il va
Maya,
dire, je me suis mariée.
Tout à l'heure, vous m'avez dit que j'étais hors sol. Aujourd'hui, on a même du mal à finir le mois bien, décemment, pour la moitié des Français, pour une bonne partie des Français. Oui. Quel parent a mis sur ton PEL de quoi, à 21 ans, subvenir aux besoins de ta petite amie qui veut que tu payes ton loyer ? Il y en a, mais la proportion.
Il n'y en a pas beaucoup, mais...
Aujourd'hui, là, par exemple, là, on est dans le 13e. Le 13e, c'est deux parties. Il y a la partie haute du 13e. Donc, eux, oui, ils ont un PEL, peut-être. Et pas tous, parce que tes charges vont avec ton train de vie. Hein. Tu gagnes 10 000, tu
vis pour
12.
Bien sûr, tu payes autant.
Quel enfant de 18 ans aujourd'hui, et franchement, j'aimerais bien lancer un sondage, sur un épargne, de quoi, à 21 ans, fournir à sa copine un logement,
je suis
payer ses charges, son sac à main Chanel, ses chaussures,
non,
partir
là,
à Dubaï.
Non, là, t'exagères.
Mais parce que les petites, tu
Dubaï,
crois qu'elles
veulent voir. Dubaï, chaussures, Chanel. Non.
Demandez quoi.
Je l'achèterai moi-même.
C'est une bonne chose.
T'es une michto, t'es une menteuse.
Ami, se lâche.
Non, mais et après, pour revenir sur ce que tu disais, Rokia, et j'aimerais bien qu'on se penche tous dessus, c'est que est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu dans l'éducation qu'on donne à nos enfants ? Déjà, si moi, j'ai envie d'être entretenue, quelle éducation je donne à mes enfants et à mes filles ? Est-ce que je les éduque dans quel sens ? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un écart dans l'éducation qui est portée à nos filles et à nos garçons ? Pendant que toi, tu demandes à ta fille d'aller à l'école, de persévérer, de rester à la maison, de ne pas traîner, et que ton fils, de l'autre côté, qui peut-être est le dernier de la fratrie, bah, tu es beaucoup plus laxiste, comme disait Aminata en début d'émission, donc lui, il a le droit de sortir, etc. Il s'éloigne des bancs de l'école. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où ils sont prêts à se mettre en couple quand la fille, bah, comme tu l'as dit, Rokia, a un niveau d'études écarré dans sa tête et qu'en face d'elle, sur le marché, elle a... Bah, des garçons qui ont déserté les bancs de l'école, qui n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas forcément le statut qu'elles veulent. Qu'est-ce qui se passe du coup ?
Tu sais, moi, j'ai une amie qui est plus jeune que nous, du coup, il me dit qu'il y a une pénurie de garçons.
Bah, les garçons dans le couloir tout à l'heure, il y a des garçons qui passent le BAFA, ils m'ont dit qu'il y a une pénurie de filles.
C'est bizarre, hein. Les jeunes, c'est ce qu'ils disent en fait.
Ah ouais ?
De part et d'autre. Parce que les filles disent qu'il y a une pénurie par rapport à ce que tu étais en train d'évoquer. C'est-à-dire que malheureusement, dans nos contextes à nous, nos environnements, bah, les garçons, il y en a beaucoup qui sont en décrochage scolaire ou qui sont dans d'autres activités, qui vont pas loin et qui forcément ne sont pas forcément insérés.
Et de plus en plus de filles.
Et de plus en plus de filles aussi. Du coup, qui demande ce genre de gars-là qui vont tout payer. Parce que moi j'ai une logique dans cette théorie-là.
C'est laquelle ?
Moi, j'ai une logique. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a que les filles. T'as dit que c'était pas toi. Hein. Donc
il peut te mettre dans la sauce,
non,
c'est pas
donc
toi.
Je peux mettre dans la sauce tout le monde. Mm-hmm. Parce que je ne veux offenser personne. C'est que pour moi, les filles...
Maya rigole parce que quand
moi, parce que parce que moi parce que parce que moi parce que moi les filles qui pensent comme ça
tout le monde,
pour moi c'est des bonnes à rien, c'est-à-dire que elles veulent rien faire, pour moi elles veulent rien faire, et la solution de facilité c'est d'être entretenue. Pour moi il y a que les cassos qui pensent
Annie,
comme
elle
ça.
Elle a dit oui toi aussi tu
pour moi il y a que les cassos
tu mélanges
pour
la sauce
moi, pour moi il y a que les cassos qui pensent comme ça.
C'est très bien, je suis pas comme ça.
Parce que
c'est très bien ce que je fais de ma vie, moi.
Parce que quelqu'un qui se projette, il peut pas dire ouais moi je veux un mec, je suis les pieds en éventail et lui, il m'entretient.
Ah, c'est pas possible. Enfin, en France, en tout cas, de ce que je vois, par exemple, mes grandes sœurs, elles sont mariées, etc. C'est pas possible que l'homme, il paye toutes les charges tout seul. C'est impossible.
Ouais.
C'est impossible. Je crois qu'il y a 4% qui gagnent plus de 4000 euros par mois ou 5000 euros par mois en France. Donc, c'est impossible. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, ce qui me concerne, c'est que moi, je vais, entre guillemets, j'ai plein de choses à côté, comme une marque de... Enfin bref, plein de choses qui font que je fais encore mes études. Je fais des études, du coup, je pense qu'il y aura du travail, etc. dedans. C'est pour être bien financièrement. Et j'estime avoir quelqu'un en face qui sera aussi bien financièrement. Mmh. Dans le sens où si moi, je me tue à la tâche, ben, je ne vais pas avoir un cassos, voilà, à côté de moi qui glande. Et moi, je le motive tous les jours à faire l'assistante maternelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est de ça que je veux parler. Et c'est très bien que je ne suis pas... parce qu'elle fait craindre rien. Mais elle sait très bien comment je suis.
Elle fait exprès.
En fait, c'est parce qu'il y a un paradoxe. Et peut-être justement que grâce à toi, on vient de le nuancer. C'est que quand les jeunes disent « moi, je veux un mec qui m'entretienne et qui paye tout », elles n'ont pas dit qu'elles voulaient rester les pieds en éventail.
C'est ça.
Ce qu'elles disent, c'est qu'elles, elles vont s'émanciper et aller chercher les fonds nécessaires, mais qu'à côté, elles veulent quelqu'un qui pèse un peu plus lourd pour subvenir aux tâches. Et peut-être que justement, c'est la nuance qui manque. Mmh. La nuance dans le propos « moi, je veux un mec qui paye tout », la dernière fois, lors d'un parole de fille, il y en a quand même, dans ce qu'elles ont pu dire, ça ne s'apparentait pas au fait d'aller travailler et de contribuer.
Non,
elles inhibent, elles effacent complètement cette partie-là et elles disent juste, moi, si le mec, il ne peut pas m'assumer, son chemin. Bon, on a fini par leur dire, bon, vieille fille, c'est comment ? Le concept, il te plaît, il ne te plaît pas, c'est bon. Non, mais et puis après, c'est qu'est-ce qu'on donne en échange de quelqu'un qui paye tout pour nous ? Est-ce qu'on traque ? Est-ce qu'on va trouver quelqu'un en face qui va nous respecter, nous aimer, ou est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui justement, bah, comme il paye tout, bah, on est un peu sa chose. Qu'est-ce qu'on troque en fait si on veut vraiment quelqu'un qui peut tout payer pour nous,
bah,
en termes d'estime de nous-mêmes, en termes de reconnaissance, en termes de valeur, est-ce qu'on a les deux? Est-ce qu'on a quelqu'un qui nous entretient de A à Z? Donc, c'est comme si on était sa propriété, puisque sans lui, on n'est rien. Qui peut nous aimer, nous respecter, nous porter vers le haut, de la même façon que quelqu'un avec qui on construit ? C'est une question, je sais
pas. C'est un débat philosophique, ça.
C'est une question de vision, pour moi. C'est une question de vision, après, tu vois. C'est si la personne qui paye tout, elle se sent tellement au-dessus qu'après, elle te considère comme une chose, c'est que la mentalité, déjà, elle n'est pas bonne, c'est qu'il se voit à travers son argent.
Mais est-ce que toi-même, tu ne le vois pas à travers ton argent, puisque ton premier critère, c'était j'ai besoin
que tu puisses tout payer. Après, ça dépend. Aujourd'hui, il y a des couples qui s'arrangent comme ça. Tu vois, l'homme, il veut que la femme reste à la maison, qu'elle fasse grandir les enfants. Donc, en respect, tu vois, je pense qu'en retour, tu vois, de tout ça, de tout ce que la femme fait, parce que pour moi, un homme qui est bien dans ses baskets, il faut qu'il ait une bonne femme qui s'occupe des enfants pendant ce temps-là. Donc, après, on a deux.
Une bonne femme.
On a la. Là, Moi, je suis entre deux. Mais moi, je pense vraiment que ça dépend de la vision. Je pense vraiment que c'est très bien ce que tu dis. Quand tu travailles à l'école et que tu t'en sors, tu ne vas pas avec les tocards. Tu as bien raison, ma chérie. Laisser les tocards avec les tocards et les gens qui se battent avec les gens qui se battent. C'est ça. Parce que ça dérègle le marché et puis après, on ne s'y retrouve plus. Et puis les places de parking, ça ne va pas. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi.
C'est une valeur que ma mère m'a inculquée dans le sens où...
C'est bien.
Non, c'est vrai. Dans le sens où ma mère, elle a toujours travaillé entre guillemets toute seule. Elle paye son loyer toute seule. Elle fait ses vacances toute seule. Elle fait des 5-6 voyages par an. Et elle... Dieu merci. C'est quelque chose qui... Enfin, chaque jour, elle nous réveille. Elle nous dit, les enfants, le monde, il n'est pas facile. Ne comptez pas forcément sur que ce soit votre mari ou pas votre mari, ou votre femme, pas votre femme. Débrouillez-vous tout seul. Faites vos études. Raison. Et continuer et persévérer.
Et ben, elle a bien raison.
Et moi, c'est une valeur que ma mère m'a apprise et j'espère du coup transmettre aussi, si je le veux, à mes enfants.
À tes enfants.
Mais du coup, est-ce que du coup, dans les 82% de familles monoparentales qui se composent de femmes, 82% des familles monoparentales sont tenues par des femmes. Il n'y a que 70% à peu près de ces femmes-là qui travaillent. Les 30% qui restent, est-ce qu'elles ne sont pas dans la case de ces femmes qui ont voulu à tout prix quelqu'un qui paye tout?
C'est ça.
30% à se retrouver toutes seules avec leurs enfants, sans revenus, sans diplôme, sans qualification. Et du coup, tu passes de la haute à rien, à plus rien en fait. Et en plus, tu ne sais même pas par où commencer puisque pendant des années, tu n'as rien fait.
Moi, je reviendrai sur la nuance. C'est vraiment le point important, tu vois. Comme tu as dit, il y a celles qui veulent ça, mais qui à côté ont coffré, ont su que je veux qu'ils s'occupent de moi, mais qu'ils soient là ou non, je vais gérer, en fait. Mon niveau de vie ne va pas baisser. Et il y a celles qui vraiment sont arrivées les pieds en éventail dès le départ. Et je pense que ça, je reviens encore sur un point que tu as évoqué, c'est cette nouvelle génération qui veut mettre la religion partout.
Partout,
n'importe comment, avant tout. On est tous, pas tous, mais ceux qui sont religieux savent. Il y en a qui abusent. Chez les chrétiens, on dit les très très spirituels. Chez les musulmans, je sais pas comment on dit, mais ceux-là là, on est crevés. Parce qu'en fait, ils veulent mettre
les très très spirituels.
Ah ouais, ils connaissent tout, ils sont avant Jésus, ils ont tout fait, ils ont construit les églises, ils ont tout fait eux. Ils étaient dans les temples avant tout le monde, on est crevés d'eux. Et je pense que ce genre de personnes qui met la religion avant tout, n'importe comment, sans structure, bah tu vois, elles sont prises dans un, en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Du coup, dans la religion, c'est très bien, mais il faut aussi revoir le contexte. Et là, je pense que ces gens religieux, catholiques, musulmans, juifs te diront « Oui, mais non, la religion, il n'y a pas de contexte. » Ma chérie, il y a un contexte. L'argent, ce n'est pas facile. Donc du coup, je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord les filles, il y a certaines de ces personnes-là, de ces jeunes femmes, qui se retrouvent dans les 30%, tu vois, à qui on a dit « C'est pas grave, en gros, ton diplôme, c'est ton mari », sans savoir que le mari, son diplôme, c'est
c'est l'église.
C'est pas possible. Non, on est crevés. Oh,
parce que quand on dit subvenir aux besoins d'une femme, c'est payer son loyer, qu'elle mange, etc. Mm-hmm. Mais c'est pas payer un chaque Chanel ou lui faire des vacances ou autre.
Ma chérie.
Parle plus près du micro, c'est...
Désolée.
C'est pas grave, vas-y.
Et j'ai dit, je reprends du coup ses propos. Quand on dit subvenir aux besoins, enfin en termes religieux, c'est qu'elle a un toit, qu'elle mange, etc. La vêtir. Mais c'est pas forcément lui offrir des voyages, des restaurants à gogo.
C'est ça,
ou
ma belle.
Des sacs Chanel.
Ou
autre.
C'est ça, ma belle.
Si tu veux utiliser la religion, utilise-la, il n'y a pas de souci.
Mais bien.
Mais les gens, ils l'utilisent comme ils veulent, en fait.
C'est voilà. Ça.
C'est ce qu'ils disaient. Mais on n'a pas parlé de... Parce qu'on a dit les filles qui veulent être entretenues, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons maintenant, les mecs qui font rien. Ouais. Et justement, un peu ce que tu disais, de se préserver de ces garçons qui viennent et qui veulent vivre à tes crochets.
Mais si.
Ils font rien.
De plus
ils sont
plus.
Couchés, ne travaillent pas, pas de diplôme.
Et ils prennent les meilleurs. Hein. Ils prennent pas n'importe qui. Hein.
Et eux, ils veulent la Rolls-Royce.
Mais c'est elles qu'ils obtiennent. Moi, je veux qu'ils nous donnent des masterclass. Parce que c'est...
Mais si, si. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que...
Ça s'est inversé, c'est
quoi ? Il y a des garçons...
Princesses.
Ouais, je crois que c'est ça.
Ah, c'est garçons, ça
princesses.
Vas-y. Elle a les mots et tout de la nouvelle génération.
Wow.
On les appelle les garçons princesses.
Ça y est.
Non, t'es pas jeune. T'es pas vieille, justement, parce que t'as les codes.
Vas-y,
c'est quoi un garçon princesse?
Explique-nous ce que c'est qu'un garçon princesse.
C'est un garçon princesse, c'est un garçon qui dépend du coup d'une femme. Je vais prendre un exemple tout simple. Un homme, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir conduire.
Mm-hmm.
Un garçon princesse, il va se mettre sur côté passager. Il va
Barbeux
dire,
un garçon princesse.
Il va dire...
Weeping.
Bah non, c'est ça. Moi je
t'ai dit tu whipping.
J'en
ai marre de vous.
Non vas-y. Parce que moi j'ai ma définition, mais tu peux avoir ta définition.
Oui, mais de toute façon, je crois qu'il y a pas de définition.
C'est ça, c'est vaste
chacun ça, ouais.
Vas-y, pour toi le garçon princesse, c'est
il a des mimiques
deux filles.
Ok.
Par exemple, comment une princesse, une fille, elle se comporte, tiens-moi la porte, enfin des trucs.
Waouh. C'est ça? D'accord.
Oui.
Ok, non, je savais
mais
pas.
Mais oui, il y a plusieurs. Pour toi, c'est quoi, Aminata, du coup? Le garçon princesse, tu le définirais comment, toi? Comme ça, chacun va définir son garçon princesse.
Je le définirais comme une personne. Enfin, il va se comporter comme une fille, mais c'est pas comme toi. Enfin, je sais pas comment tu l'as expliqué.
Toi, tu dirais comment, toi comme ça.
Après, moi, j'en vois pas souvent des garçons princesses. Mais ouais, c'est plus un garçon qui va pas vouloir aller taffer des trucs comme ça, quoi. Okay. Genre, en mode, il va vouloir que tu lui donnes beaucoup et lui, il va pas te donner. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Mais ça, lui, il a rien à te donner. Il a rien à te donner.
Non, mais
il a
rien à te donner.
Hein?
L'histoire de date.
Mais explique.
Non, vas-y.
Non, vas-y. Parce que moi, j'ai jamais fait de date.
Oh. Oh. Mais c'est pas parce que t'en as jamais vu que personne t'en a jamais raconté.
Toi, aujourd'hui, c'est tiré. J'ai
ouais, toi, aujourd'hui, là, on va te. On va...
Non, dans le sens où, par exemple, lors d'un premier date, on a du coup cette image que c'est l'homme qui paye. Mm. Bah, le garçon princesse, il va dire non.
Il est fou.
C'est qui a proposé la sortie? Si c'est la fille qui a proposé la sortie, c'est la fille qui doit payer.
Oh my god.
Ok.
Horrible.
Donc voilà.
Et toi, du coup, tu le définirais comment, Maya?
J'ai pas de définition parce que là.
Non, mais quand t'entends garçon princesse.
Moi, je me dis que c'est plus dans les réactions. Vous voyez, aujourd'hui, pour moi, c'est les garçons qui font la cour. C'est peut-être un garçon qui va vouloir qu'on lui fasse. Oh là là, excusez-moi.
Qu'on
lui fasse la cour. C'est peut-être un garçon qui va. Tu boudes, il boude. Pour moi, un homme, ça boude pas, déjà. Non, un homme, ça gronde. Ça boude beaucoup parce que les hommes, c'est des grands bébés. Mais il y a des manières de bouder. Mais j'ai l'impression que les garçons princesses, ils vont bouder sur des trucs où pour moi, un homme de base ne boude pas. Je sais pas, ça, c'est pas c'est.
Donc, non, t'as raison. On régresse,
tu vois. Donc pour moi, ce serait plus sur ces choses-là. Après, payer, tout ça, c'est la base.
Ok.
Hein,
moi, je peux.
Vas-y, Anne. Princesse, parle-nous.
Pour moi, les garçons princesses, déjà de base, c'est pas des hommes. Première chose, quand je dis c'est pas des hommes, c'est par rapport à l'image.
Je peux quitter le plateau.
Quand je dis c'est pas des hommes, c'est l'image qu'on en a. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un homme, on va dire qu'on a une définition. On a dans la conscience collective, un homme, il a des tâches qu'il doit faire, il a un comportement qu'il doit avoir. Mm-hmm. Donc quand je dis que c'est pas des hommes, c'est que ces personnes-là ne remplissent pas ce cahier des charges. Mm-hmm. Maintenant, les garçons princesses, pour moi, c'est des garçons qui profitent de la situation. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas grand-chose à proposer. D'accord ? Et du coup, ils attendent de l'autre. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu disais qu'il y avait beaucoup plus de jeunes hommes maintenant qui se faisaient entretenir. Mais ils se font entretenir pourquoi? Sachant que, comme tu disais tout à l'heure toi-même, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'évoluent pas socialement. D'accord? Ils ne sont pas dans l'insertion, ils sont en marge. Et du coup, même s'ils sont en marge, ils ont quand même envie d'avoir des interactions avec les autres. Mmh. Mais malheureusement, si tu n'es pas inséré, tu ne peux rien faire. Je peux rien faire. Tu sais, même, ok, il y a des. Parce que moi, j'en connais, il y a des petits, c'est des beaux gosses, des beaux parleurs, mais en réalité, ils n'ont rien à proposer.
Moi, je dirais que il y a quelque chose aussi autour de l'éducation. C'est-à-dire que. Vous voyez, quand on parle des enfants rois,
beaucoup.
Hommes comme femmes. Hein. Les enfants rois, là, ceux qui ont tout, ça tombe comme ça, la frustration, ils ne connaissent pas, le goût de l'effort, ils ne connaissent pas. Les finances, ils connaissent pas. Et ben, ça donne des princesses et des princes. Et du coup, eux, quand ils arrivent à l'âge adulte, et ben, comme ils ont pas la notion de l'effort, comme on leur a tout donné, comme on leur a tout pardonné, comme à chaque fois qu'ils ont fait une mauvaise action, les parents étaient derrière à dire non, c'est pas mon fils, c'est sa fréquentation, etc. Et ben, ça donne après un adulte princesse ou prince. D'accord. Qui attend de l'autre une maman bis, une maman sauveuse ou un papa sauveur. D'accord. Et du coup, qui se mettent en couple avec l'attente de l'autre. Mais moi, en fait, je suis née pour être servie, moi. Moi, je suis... Et quand je ne vais pas travailler, ben, ce n'est pas de ma faute. Pourquoi tu me reproches de ne pas aller travailler? Vas-y, toi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien direct entre la façon dont on éduque les enfants en leur laissant penser qu'ils peuvent tout faire, qu'ils ne sont responsables de rien. Même, je te prends la main dans le sac, tu tiens un four, tu rentres à la maison, ta chambre, elle sent la bœuf, et je te dis encore que c'est pas toi, c'est tes fréquentations. Mais non, c'est ses copains qui fument sur lui.
Ça, c'est les mamans toxiques.
Et du coup,
des garçons princesses.
Cet enfant-là, en fait, quand il arrive dehors, quand il va rencontrer une fille qui, elle, a étudié, il attend d'elle quoi? Une seconde mère? Ou ce garçon-là, ou à l'inverse, hein, cette fille, elle attend un nouveau papa, en fait. Mm-hmm. Ce papa poule qui m'a protégée de tout. Je peux mal parler, je peux mal me conduire. De toute façon, mon père, il a toujours cassé des bouches. Et j'attends de toi, mon futur mari, que tu casses des bouches. Parce que je compte bien parler mal à tout le monde. Et je compte bien faire en sorte que mon mec soit un bonhomme. Et prouve-moi que t'es un bonhomme. Et si tu tombes parce que t'as couvert ma connerie, t'inquiète pas, je te ramènerai des oranges. Tu vois ? Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe entre ce côté prince, princesse. Et en fait, comme disait Barberiche, et comme vous l'avez bien dit, déjà, t'as rien dans les poches. Donc en fait, à part jouer de ton beau visage, parce que depuis que t'es petit, on dit que t'es beau, eh ben, tu vas les draguer comme ça et tu vas trouver un bon pigeon. Mais finalement, c'est que des problèmes. Et du coup, on en revient à la responsabilité des parents. Même si, à partir d'un certain âge, l'enfant est censé faire preuve de son libre arbitre, quand t'as un parent qui n'a pas assumé son rôle, son devoir, qui t'a pas éduqué, ce qui est sa première... son premier devoir, bah ça donne un adulte qui sera pas fini. Et puis de toute façon, quand tu poseras tes mauvais actes, il sera encore là pour dire que c'est pas toi. Donc quand tu deviens adulte, à quel moment t'as rencontré quelqu'un qui t'a éduqué ? Parce que même à l'école, ton prof, il peut rien te dire. L'éducateur, la maison de quartier, personne peut rien te dire parce que ton baron, il arrive tout de suite. Est-ce que du coup, c'est pas ça, les enfants princes et princesses ?
Moi, je suis d'accord.
Je vous ai parlé de dérègleurs.
Voilà. Dérègleurs. Les pieds dans la tasse. Même si tu n'as fait que ça, en fait. Anne, ta question qui dérange ?
Ouais, ce que je peux avoir. Là, je réfléchis. En fait, j'ai plusieurs choses en tête. Mais je voudrais, pour rester un peu dans le concret, rebondir sur ce que tu disais concernant le monde qui est méchant. Le monde, il est méchant. On en est conscient. Mais est-ce que le fait de faire des enfants n'est pas de l'inconscience, ne serait pas de l'inconscience.
Waouh, bah, t'as plus en plus de jeunes qui disent qu'ils veulent pas d'enfants pour l'écologie, pour les crises sociétales, les guerres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous ? Déjà, est-ce que vous voulez des enfants ? Est-ce que vous voulez des enfants ?
Ouais, mais
les
pas
filles,
beaucoup.
T'en veux combien ?
Et 3 max.
Ok, et toi ?
3, ça remplit la voiture.
3, ça remplit la voiture. Maya, tu veux combien d'enfants ?
Ce que Dieu va donner tant que ce n'est pas 5 ou 4.
Mais ce que Dieu va donner, ça peut être 12. Hein.
3 ou 4, c'est très bien.
Ok. Barbeux ?
Moi, j'en ai 3. Et vraiment, ce qui conditionne, en tout cas pour moi, ce qui conditionne la suite, si j'en ai un dernier ou d'autres, c'est les finances. Même si aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre.
Ça coûte.
Ça coûte. Ça coûte. Réellement, réellement. Et du coup, je n'ai pas envie... de faire venir, d'où l'inconscience, de faire venir un autre enfant dans un contexte qui serait peut-être un peu plus difficile pour lui.
Ouais.
Alors que là, j'arrive à quand même me débrouiller avec mes 3 enfants, ma femme et mes 4 animaux.
Chut. Du coup, est-ce que vous comprenez ceux qui ont cette réticence à faire des enfants dans ce bas monde aujourd'hui ?
Moi, je suis tombée sur une influenceuse qui disait qu'elle voulait pas. Enfin, elle était enceinte. Après, elle a perdu ses enfants et qu'elle disait qu'elle voulait pas avoir du coup des enfants. Et on lui demandait pourquoi ? Parce que c'était du coup une Africaine, enfin, qui avait beaucoup de frères et sœurs.
Par rapport aux mœurs ?
Non, tout simplement, elle disait que le monde il était méchant, que par exemple grandir peut-être en France, ça pouvait être dangereux pour que ce soit ses filles, ses garçons, enfin dans le monde entier en fait. Et du coup, elle avait cette peur-là et elle avait peur de faire grandir du coup ses enfants et de pas pouvoir être là pour eux. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu du coup
ne pas
en avoir.
Aminata, est-ce que tu comprends ces gens qui justement ont peur ou des réticences à avoir des enfants dans la société d'aujourd'hui ? Pourquoi ?
Parce que pour moi, c'est dur. Enfin, aujourd'hui, c'est dur, surtout en France, enfin, de grandir. De... Eh, moi, franchement, je ne peux pas parler. Je trouve...
Mais non, mais parle pas dans le micro, parle-nous.
Je parle à
nous. Oui, c'est ça qui dérange. Enlève-le.
Tout me dérange.
Oh, vas-y, dis. Pourquoi tu penses que justement. Avoir des enfants dans cette société, ça peut faire peur.
Bah, moi, étant jeune dans cette société, pour moi, c'est compliqué. Surtout, après, on habite en France, donc je peux voir que la vie en France. Mais pour moi, c'est compliqué de se construire, de grandir, ici en tout cas.
Et qu'est-ce qui rendrait ça compliqué, selon toi ? Qu'est-ce qui rend ça compliqué ? Est-ce que c'est...
Bah, la mentalité, comme je trouve qu'on grandit trop vite, c'est compliqué. Genre, je ne saurais pas comment l'expliquer.
Oui, mais tu l'as déjà bien dit, c'est tellement compliqué.
Tout
Maya ?
Oui, je comprends. Je comprends les gens qui sont réticents. Je comprends que les gens aient peur aujourd'hui quand tu vois, que, tu vois que quand même on est en France, qu'on est en Occident, on ne vit pas dans des pays en développement et que l'argent manque quand même malgré tout ça. Quand tu vois que les gens ils se donnent les moyens à fond mais qu'ils n'arrivent même pas des fois à terminer la fin du mois. Oui, je peux, franchement, je peux comprendre. Vraiment, je peux comprendre. Et ça ne me choque pas qu'il y ait de moins en moins de personnes qui veulent des enfants. Parce que la société, elle fait vraiment peur. Et puis avec ce qu'on voit, ce qu'on veut apprendre à tes enfants, tu as l'impression que tu perds le contrôle, en fait. Tu vas faire des enfants, mais tu n'auras plus le contrôle, tu vois. On va leur apprendre des choses dont toi, tu n'es pas d'accord, mais tu ne peux pas parler parce que c'est régi par la loi, par l'État. Il y a plein de choses, je trouve. Les valeurs, autant tout à l'heure, vous avez parlé de coparentalité, c'est ça, hein. Avant, voilà, il y a la rue qui t'éduque, il y a la maison, il y a tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai l'impression, même l'éducation des parents, elle est de plus en plus minime, tu vois. Ce qu'on va t'apprendre à la maison, dehors, on va enlever toute la légitimité de tout ça. Donc oui, moi, je peux comprendre, vraiment.
Anne, est-ce que tu comprends la réticence ou la peur de certains jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, d'avoir des enfants ?
Bien sûr. Bien sûr, je comprends. Je comprends parce que, avec tout ce qu'on voit, on se dit qu'on n'a pas forcément envie d'offrir ce monde
exact
à un enfant. Après, il y a aussi cette notion, moi, c'est quelque chose que je dis souvent lors de mes prises de position, c'est que le modèle de la famille aussi, il est ébranlé depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'on est dans une société capitaliste de consommation et on nous montre de moins en moins de familles dans les publicités. Mm-hmm. On met de moins en moins les familles en avant. Mmh. Et donc, du coup, c'est vrai que vu qu'on est beaucoup dans de la projection, on s'identifie aussi beaucoup aux choses qui nous entourent. Mmh. Et les jeunes, je comprends, moi, qu'ils n'arrivent pas à se projeter avec un enfant parce que ce qu'on leur montre, en fait, c'est que la fête, les voyages, la consommation. Mmh. Et très rarement, en tout cas moi, de ce que j'analyse, le fait d'être avec un enfant et de l'éduquer. Et comme en plus on nous montre souvent aussi, pour terminer, on nous montre aussi souvent des points négatifs de la jeunesse, à un moment donné on se dit ah ouais, non, être dans un bourbier pareil là ça m'intéresse pas.
C'est foutu. Moi aussi, en fait je comprends et de l'autre côté je m'en veux parce que je me dis, tout à l'heure on parlait de la naïveté, je pense que cette jeunesse, on leur a enlevé la naïveté et il y a trop de responsabilités qui pèsent sur leurs épaules.
Oui.
Le climat, c'est vous. Les guerres dans le monde, c'est vous.
Oui.
Et du coup, on est face à des jeunes qui...
Les influenceurs, c'est vous.
Les influenceurs, c'est vous. Vous êtes la génération réseau. Vous n'allez pas bosser. On n'a pas de chômage, c'est vous. On n'a pas de retraite, c'est vous. Tout, c'est vous, en fait. Et du coup, on demande à cette jeunesse qui est mal aimée d'aimer un monde qui les méprise. Et je pense que c'est de là aussi que vient l'angoisse de porter la vie et de devenir parent, parce que du coup, c'est à ce moment-là qu'on se dit comment moi, je vais être parent, éduquer un enfant dans cette société qui va mal. Et comme tu disais, les médias qui nous montrent tout ce qui va mal dans le monde, on a perdu cette naïveté. Je pense que de toutes les générations, il y a eu des gros combats, des grosses crises, il y a eu des guerres, il y a eu des grosses maladies, il y a eu la rage, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Il y a eu l'esclavage, il y a eu l'antisémitisme, il y a eu... Et pourtant, comme il n'y avait pas cette fenêtre ouverte sur le monde, les enfants, ils restaient dans ce qu'ils voyaient dans leur réalité directe, alors qu'aujourd'hui, tu vois ce qui ne va pas ici, ce qui ne va pas là-bas, ce qui ne va pas là-bas. Et du coup, on te dit que la Terre, elle va bientôt disparaître, qu'il n'y a plus assez de ressources, et tous les 6 mois, on te dit que ça y est, on a utilisé toutes les ressources que la Terre pouvait nous apporter. Et de l'autre côté, tu demandes à ces jeunes, du coup, qui sont très réfléchis et très intelligents, de se projeter. Intelligemment, ils disent quoi? Non. En fait, si votre promesse, c'est que la fin du monde est là, pourquoi tu veux que je fasse des gosses pour ne pas les voir grandir?
Exactement.
Donc, je pense qu'il y a aussi, et c'est pour ça que je m'en veux, parce qu'en tant qu'adulte, dans les messages qu'on prône, dans ce qu'on renvoie et la naïveté qu'on enlève à nos enfants, du coup, ça donne des enfants angoissés.
Beaucoup.
D'ailleurs, les cabinets de psychologues, ils sont pleins.
Oui. Tu avais vu l'émission sur la 6 où ils parlaient des jeunes, l'impact des réseaux sur les jeunes?
Ouais, j'avais vu. En tout cas, il y avait plein de choses à dire. Vous voyez, les filles, on aurait pu y passer des heures et des heures. L'émission touche à sa fin. Ça fait déjà 1h30 qu'on converse ensemble. Je remercie Mon Paris FM de nous recevoir. Vous pouvez nous retrouver dès demain soir sur Mon Paris FM et ensuite sur Spotify et toutes les autres plateformes de téléchargement. Merci à vous d'être venus, d'avoir passé du temps avec nous et je vous dis à bientôt. Ciao.
Merci.